السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبارك فيكم وشكر حضوركم وسعيكم. وبداية أفتتح كلامي هذا بتقديم الشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد واستضافتهم وحسن ظنهم بنا، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك تحت طاعته أن يجمعنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين يوم القيامة، وأن يجمعنا وإياكم في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبائي، موضوع حديثنا بإذن الله تعالى حول موضوع مهم ويتعلق بأشرف ما يبتغى في هذه الدنيا، وهو طلب العلم. وقد تكرر ذكر هذا الموضوع في هذا المسجد وغيره، ولكن لم يكن حديثنا حول شرفه ولا في سرد الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان ذلك، وإنما طلب منا أن نذكر المنهجية في طلب العلم. فكثير منا لما يجلس أمام العلماء أو يستمع إلى أشرطتهم ودروسهم يتمنى أن يكون يوما من الدهر عالما شيخا جليلا يبلغ ما أخذه، ولكن الكثير منا أيضا ينسى أو يتناسى أن هناك طريق طويل صعب ذو مشقة حتى نصل إلى تلكم الغاية. فلعلنا نشير إلى مراحل مهمة تعين طالب العلم إلى بلوغ المرام، فأعيرني القلوب والأسماع جيدا، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكذلك أسأله جل وعلا أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. Notre cher frère, je suis heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui, et avant toute chose, je tenais à remercier les frères qui sont responsables de cette mosquée, ceux qui ont décidé de nous inviter, de les remercier pour la bonne opinion qu'ils ont de nous, ainsi que de vous remercier, vous qui êtes présents. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il récompense l'ensemble pour leur présence et pour les efforts qu'ils ont accomplis afin que cette rencontre ait lieu. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous a réunis aujourd'hui dans cette mosquée sous son obéissance, qu'il nous réunisse le jour du jugement sous l'étendard du plus noble des messagers et dans le paradis dans le plus haut de ses degrés. Mes frères, on nous a demandé donc de parler, de faire référence à un sujet très important. Il s'agit de la science. Et on a très souvent abordé ce sujet ici et ailleurs, dans des discours, des conférences, des khutab, des sermons, dans lesquels les hadiths et les versets faisant référence à la noblesse de la science ont été répétés et ont été cités. Ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une approche concernant la méthodologie dans l'apprentissage de la science. Très nombreux sont les musulmans et les musulmanes qui, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, ont l'occasion de s'asseoir devant les savants, les vrais, hein, pas les copier-coller ratés, et d'écouter les cassettes ou de lire les livres des savants, et donc ont une envie, une ambition, et on y reviendra sur le terme ambition. Des fois démesuré, des fois on en a peur, mais on se dit dans sa tête, j'aimerais bien être un savant moi aussi. J'aimerais bien moi aussi m'asseoir et transmettre la science aux gens, laisser une trace après ma mort. Ça aussi on y reviendra. Et très nombreux sont les musulmans et les musulmanes qui aiment la science, walhamdulillah. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre eux ignorent les étapes à traverser pour atteindre cet objectif. Alors, on se précipite, on ramasse, on achète tout ce qu'on trouve, on écoute, on lit, on apprend de façon désordonnée. C'est pour cela que de nombreux savants nous expliquent dans certains de leurs ouvrages la méthodologie pour apprendre correctement, pour apprendre d'une façon stable et ferme dans laquelle tu cueilleras les fruits et tu verras après un certain temps les résultats éclore. Donc, l'apprentissage de la science est un long chemin semé d'embûches et d'obstacles difficiles à traverser. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a de nombreuses personnes qui commencent à étudier et quand on arrive à la fin du chemin, on se rend compte que le nombre a énormément diminué. C'est pour cela qu'il est bien au départ, avant de rentrer dans cette méthodologie, de faire référence à ce qu'on appelle al-himma. Al-himma, c'est la volonté. Bien, si vous voulez, avec un autre terme, la motivation. Quelle est ta motivation dans l'apprentissage de la science? Et nous, toujours, nous revendiquons notre appartenance à Ahlus Sunnati wal Jama'a, aux gens du groupe et du consensus. Ceux qui prennent le Coran et la Sunna selon la compréhension des trois premiers siècles qu'on appelle plus communément les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, que ce soit les compagnons ou les deux générations qui les ont suivis, nous ont laissé des exemples et des anecdotes qui furent gravés dans les annales de l'islam, dans son histoire. Et ceci dans tous les domaines de l'islam. Ibadatan, wa mu'amalatan, wa ilman. Que ce soit dans l'adoration, le lien qu'ils ont avec Allah Azza wa Jal, que ce soit dans les rapports qu'ils ont avec les gens, ou que ce soit dans la science. Et parmi ces nombreuses traces qu'ils ont laissées dans l'histoire, la himma qu'ils avaient pour apprendre la science, la motivation, la volonté qu'ils avaient pour apprendre la science. Quand on jette un coup d'œil sur ces livres qui nous racontent, qui nous rapportent, de quelle façon ils étaient acharnés et ils étaient convaincus et rien ne pouvait les décourager ou les pousser à abandonner. Rien. Comme on le verra à travers certaines anecdotes de nos pieux prédécesseurs. Et là, on revient à nous. Là, on revient à nous. Quelle est ta motivation quand tu étudies la science? Vous savez, nous, sur Paris, on a une école et je reçois quasiment par semaine peut-être une dizaine d'appels de frères, voire même de sœurs, qui demandent des tests SIAT pour pouvoir présenter une candidature dans les universités de Médine ou de la Mecque, voire même de Riyad. Et nous, bien entendu, quand on peut aider, on aide, on leur fait ce genre de documents. Car c'est demandé dans les papiers à fournir. Et on est étonné de la multitude de personnes qui veulent partir étudier. Et c'est comme si là, maintenant, je vous disais, qui ici veut partir en Arabie étudier devant les chouyours? Est-ce que vous allez rester les bras croisés, vous allez lever vos mains, vos pieds, tout ce que vous pouvez lever devant le cœur, vous allez le lever? صحيح ولا لا؟ C'est normal. نحن لا نعيبكم في ذلك. هذا أمر طبيعي ومطلوب. On ne vous reproche pas cela, c'est naturel et c'est demandé. Et ça montre l'engouement et l'enthousiasme et l'envie que nous avons d'apprendre. Et ça fait des années, walhamdulillah, que les frères y partent étudier en multitude. S'ils arrivent à être pris, si par Allah, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont acceptés dans une de ces universités, ils partent. Ou bien ils partent dans notre pays, walhamdulillah, ardullahi wasi'a. Et grâce à Allah, la terre d'Allah, elle est vaste, c'est large. Ils partent. Maintenant, billah, allez. En termes de probabilité, de statistiques, sur le pourcentage de personnes qui partent, combien reviennent avec quelque chose? Combien reviennent avec quelque chose? Je me souviens, lorsque j'étais en Égypte, j'ai rencontré un frère qui était là-bas déjà depuis 2 ans. Alors, je l'interroge sur les cours qu'il prend. Il me dit qu'il a fait tel et tel livre. Ce qui me paraissait peu pour quelqu'un qui a fait 2 ans. Je dis, c'est tout? Pourquoi t'as pas fait plus? Il me dit, le dernier prof que j'avais, il avait des erreurs. Alors j'ai arrêté. J'ai agi. Toi comme type d'erreur. Il m'a dit que le masdar était toujours mansoub. Et ma femme, elle a un prof, elle lui a posé la question et la prof, elle a dit non, c'est faux. Il y a certains cas où le masdar, il n'est pas mansoub. Alors, بمجرد هذا السبب توقف عن أخذ العلم عن هذا الأستاذ. Seulement à cause de cette cause, il a, seulement à cause de cela, on va parler français bien, on va essayer. Il a arrêté de prendre des cours avec ce professeur. Et le frère, comme je vous disais, ça faisait 2 ans qu'il était là-bas et son niveau d'arabe était très faible. Pour pas dire inexistant. Je dis, mais Akhi, déjà chez le Koufiyoun et le Basriyoun, le Masdar, ça ne veut pas dire la même chose. Chez le Koufiyoun, le Masdar, c'est le Maf'ul al-Mutlaq. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا يَكُونُ مَنْصُوبًا دَائِمًا. Les filles faisaient référence au masdar, le ma'ruf, fin nahwi, أنه الاسم الذي له معنى الفعل أو يدل على يعني حدث مجرد عن الزمان كما هو معلوم فقد يكون منصوبا وقد يكون غير ذلك وأيا كان فأنت مبتدئ فخذ ما أعطاك وسوف ترتقي في مستقبل قريب أو بعيد إلى مستوى يمكنك به أن تفهم هذه الأشياء. En gros, en termes grammaticaux, le masdar, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle en français le substantif. C'est-à-dire le nom qui indique un événement, comme le verbe, mais qui est dénué d'indications temporelles, qui n'indique pas un temps. Exemple, une tuerie. Tu comprends du mot une tuerie, l'action de tuer. Mais est-ce qu'il y a une indication temporelle dans ce mot-là? Non. Alors que chez le verbe, en fonction du temps où il sera conjugué, tu sauras s'il indique le passé, le présent ou le futur. Donc le masdar, ce mot-là, Al-Muhim, je vous expliquais qu'il y avait une divergence verbale, dans les grandes écoles de grammaire arabe, et que chez certains d'entre eux, d'après certains d'entre eux, ton professeur n'avait pas tort. Et quand même il ne se serait pas basé sur cette parole-là, ce n'est pas considéré comme une erreur réellement. Mais c'est un peu comme quand on est en CP ou bien en primaire, et que la maîtresse, elle nous dit, on ne peut pas faire 3 moins 4. Vous vous souvenez, c'est interdit, c'est impossible de soustraire un inférieur à un supérieur. 3 moins 4, on te dit, c'est faux, c'est impossible. Et quand tu arrives en 6e, on te dit, en fait, non, c'est possible, mais tu n'es pas encore assez évolué intellectuellement pour qu'on t'explique ces choses-là. C'est normal. Mais vous savez quoi ? من عاشر قوما 40 صار منهم. Celui qui côtoie un peuple, في الحديث 40 يعني 40 jours, il devient comme eux. Vous savez, nous tous ici, quelle que soit la couleur de notre peau ou bien notre origine, on est des Français. Et les Français, c'est connu, ils sont jamais contents. Les Français, c'est connu, ils se plaignent tout le temps. Je peux t'appeler Mohamed, Mamadou, Chinchon, un truc, hein, Al-Muhim, un homme de consonance asiatique, ou bien de n'importe quel autre pays. Ne prenez pas mal, les frères et sœurs asiatiques, c'est parce que je connais pas de nom asiatique, je vais me dire Jacques Chan, vous allez rigoler. Alors, tu peux être n'importe quel pays, t'as été matbou en France, t'as été sorti, t'es né en France, et t'as vécu en France au milieu des Français, eh ben, tu te plains. T'es jamais content. Un petit exemple vite fait, la retraite à 67 ans. T'as vu la belle balade que ça fait en France? En Allemagne, ça fait un bail, c'est comme ça. La loi, elle est passée comme une lettre à la poste. Personne n'a parlé. En Espagne, ça fait un bail, c'est comme ça. La loi, elle est passée comme une lettre à la poste. Personne n'a parlé. La France, comment ça, la retraite à 60 ans? Qamatid dunya wa lam taq'ud. Hein? Qamat wa lam taq'ud. Elle s'est levée, elle a crié, on veut pas la retraite à 67 ans, ils ont tout retourné. Et bien à la fin, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Démocratie. Voilà. Al-Muhim. On est des Français, on n'est jamais contre. T'arrives en Arabie, t'es pas content. T'arrives en Égypte, t'es pas content. T'arrives au Yémen, t'es pas content. T'arrives au Maroc, en Algérie, où tu veux, t'es pas content. Ouais, mais subhanallah, c'est quoi ces murs-là? Il y a des bêtes. Hey, mon voisin, il me donne jamais de la soupe. Bref, tu cherches des excuses. Et là, ton âme, elle se déchaîne. Ton œuf, ça se déchaîne. Elle n'est plus dans le confort. Chauffage, eau chaude, hein? Quand tu ouvres le robinet, elle est transparente. Pas besoin de s'installer des dévenants. Bon, l'eau du robinet, c'est la même chose. Va dans les pays, les autres. Si tu arrives à voir à travers l'eau, c'est bien. Et oublie l'eau du robinet. À part te laver avec, tu peux rien faire. Et j'en passe les deux. Là, tu oublies. Et quand il fait froid, eh ben, quand tu arrives chez toi, il fait encore froid. Et ainsi de suite. Al-Muhim. Ça, c'est bien. Voilà, c'est des khibar. C'est des expériences qu'il faut vivre. Et c'est là que tu vois les vrais. C'est là que tu vas voir les vrais. Ceux qui sont là pour talabul ilm. Et pas ceux qui sont là pour autre chose. Al-himma. La motivation. La motivation. Jusqu'où tu peux aller pour apprendre la science? Jusqu'où est-ce que tu peux aller? Jusqu'où ton âme, elle peut supporter le mashaq par la difficulté pour atteindre cet objectif noble. Ibn Jawzi, rahimahullah, il disait, ta'ammaltu ajaban, wa huwa anna kulla shay'in nafis khatir yatoulu tariquh, wa yakthuru ta'abu fi tahsilih, fa'inna l'ilma lamma kana ashraf al-ashya lam yuhsal illa bit-ta'ab was-sahari والتكرار وهجر اللذات والراحة.
Il disait, Ibn Jawzi, rahimahullah, j'ai réfléchi sur une chose, yani, étrange. Je me suis dit, chaque chose précieuse, plus la chose est précieuse, plus c'est difficile de l'atteindre et le chemin qui amène à lui est long. Et comme et la fatigue que l'on va avoir pour l'obtenir sera grande. Et comme la science est la plus noble des choses, et forcément celle qui a le plus de valeur, tu l'obtiendras qu'en te fatiguant, qu'en veillant, qu'en multipliant et répétant les efforts, et qu'en délaissant les plaisirs et le repos. Et qu'en délaissant les plaisirs et le repos. On entend ces phrases, c'est de belles phrases, venant de grands savants, on a du mal un petit peu à les mettre en, dans nos têtes, à les exprimer, à les imaginer. Alors comment on fait? On regarde chez les salafs. Et eux, ils vont vous donner une surah, mithaliya. Hein? Ils vont nous donner un exemple réel de ces paroles-là. Et là, ce n'est pas les exemples qui manquent. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit: Lamma qubida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qultu li rajulin min al-ansar, halumma falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa innahum al-yawma kathir. Lorsque le prophète mourut sallallahu alayhi wa sallam, j'étais voir un homme parmi les ansar et je lui ai dit: Viens qu'on aille interroger les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car aujourd'hui ils sont nombreux. Faqala ar-rajul wa ajaban laka ya ibn Abbas atara an-nas yaftaqiruna ilayka wa fi an-nas min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam man fihim. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es étonnant, ô Ibn Abbas? Ça c'est une traduction jolie. Aujourd'hui on aurait dit: t'es fou ou quoi? On aurait dit un truc comme ça. Il lui a dit: est-ce que tu crois que les gens ils auront besoin de toi alors qu'il y a parmi eux les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous allez me dire, Ibn Abbas, c'est un compagnon, mais lui il était petit. Lorsque le prophète alayhi wa sallam est mort, il était à peine pubère. Alors Ibn Abbas radiyallahu anhum a dit: fataraktu dhak وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل أي نائم فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل لا أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. Alors Ibn Abbas رضي الله عنهما qui vient de donc d'entendre de la part de cet ami qui était le sien, laisse tomber, il a dit: je l'ai laissé. Et j'ai commencé à aller voir les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, afin de les interroger sur ce qu'ils pouvaient m'apporter comme science prophétique. Lorsque je savais que l'un d'entre eux avait un hadith, j'allais chez lui. Et je le trouvais en train de faire la sieste. Alors, avec son rida, c'est une cape qui sert de couvrir la partie supérieure du corps. ويقابلها الإزار. هنا الإزار qui sert, cette cape aussi qui sert à couvrir la partie inférieure du corps. Donc il prenait sa rida, yani sa cape, et il en faisait un coussin devant la porte du compagnon. Et il attendait que le temps passe et que le compagnon se réveille. Et le vent il soufflait et le recouvrait de sable, mais lui il ne bougeait pas. Plus tard, lorsque le compagnon ouvrait sa porte, il trouvait Ibn Abbas radiallahu anhuma allongé devant sa porte. Il disait, oh, fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, c'est Ibn Abdil Muttalib. Hein? Abdullah ibn Abbas est le fils de l'oncle du prophète Abbas ibn Abdil Muttalib radiallahu anhuma. C'est pour ça qu'on dit radiallahu anhuma, et pas anhu. Il dit, mais qu'est-ce qui t'amène? Si tu m'avais appelé, je serais venu à toi. Alors Ibn Abbas radiallahu anhuma lui répond, non. C'est moi qui dois plus venir vers toi. C'est moi qui dois plus venir vers toi, car tu as une science que je ne possède pas, je suis venu te la demander. Alors, il l'interrogeait sur le hadith et le compagnon lui donnait ce hadith. فَعَاشَ هَذَا الرَّجُلُ الْأَنْصَارِ حَتَّى رَآنِي وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلِي يَسْأَلُونَنِي. Donc on revient à l'ami d'Ibn Abbas, Al-Ansari, qui a refusé de l'accompagner chez les compagnons pour apprendre la science avec lui. Le temps lui est passé suffisamment pour que cet homme-là, ce Ansari, vit de ses propres yeux les gens agglutinés autour de Abdullah ibn Abbas, ça fait des années après, à lui poser des questions. Ça y est, Ibn Abbas, il a fait sa marhala, il a tlub al-ilm, il est devenu un alim, et les gens se sont donc retrouvés autour de lui à l'interroger dans leurs affaires religieuses. Et quand il a vu cela, il a dit, هذا الفتى كان أعقل مني. هذا الفتى, ce jeune homme, était plus intelligent que moi. Quand lui, il s'est accroché, et moi, j'ai abandonné avant même d'essayer. Donc là, on voit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui allait voir les compagnons les uns après les autres, radiallahu anhum, et qui même des fois passait de longues heures au moment où le vent soufflait fort et retournait le sable. Il passait de longues heures allongé devant la porte de l'un d'entre eux à attendre qu'il daigne bien sortir. Les salafs, quand ils apprenaient la science, supportaient tout. Et des fois, vous avez des anecdotes assez amusantes, notamment avec un salaf qui s'appelle Sulayman ibn Mihran. Qui c'est qui me donne son nom pour lequel il est connu? Pas toi, vous êtes. Quelqu'un connaît? Min Rijal al-Bukhari, Sulayman ibn Mihran. Vas-y, vous êtes. Al-A'mash. Al-A'mash, c'était un savant, un rapporteur de hadith, qui a été connu pour son wasf. Al-A'mash, c'est quelqu'un qui voit mal. Al-A'mash. Il était très sévère avec ses élèves. Et il avait un chien. Le frère commence déjà à rigoler. Attendez. Il avait un chien. Il lui posait à côté de lui. Il disait, toi, là c'est le hadith. Attaque. Et il lâchait le chien sur le talib. Et tu voyais un chien qui courait derrière un talib. Laisse-moi tranquille. Et l'A'mash, rahimahullah, donc ce chien, donc il croquait les élèves pas sérieux. Et lorsqu'il est mort, les tombables étaient tristes de voir ce chien mourir. Tu vas me dire, nous, on était contents, ouais, il est mort. Eux, ils étaient tristes, ils ont dit, مات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il nous dit, celui qui a ordonné le bien, interdit le mal, il est mort. Le chien. L'A'mash, il lui arrivait des fois, à cause d'une colère qu'il avait eue sur ses élèves, de les priver de cours pendant un mois. Imaginez, c'est la halqa comme ça, et chacun doit réciter les hadiths. Un ta'arid, i'arad, vas-y récite. N'importe quoi, rassis-toi, à ton tour. Non, c'est nul, à ton tour. Et c'est quand le demi monte, parce qu'il voit que les élèves ne sont pas sérieux, vas-y, c'est comme ça. Pendant un mois, je n'ai plus de cours. Et il s'assied dans un coin de la mosquée, il ne calculait plus. Quand les tolabs, ils faisaient quoi? Ils partaient rentrer chez eux. Et bien, ils restaient dans la mosquée jusqu'à ce que le shir, hein, se calme et revienne leur donner des cours longtemps après, quelques jours après. Et Al-Zahabi, rahimahullah, et d'autres historiens rapportent qu'un homme est venu de loin pour prendre le hadith chez Sulayman ibn Mihran al-Ma'ruf bil-A'mash. Et il est arrivé à la mosquée, il ne pouvait pas rester longtemps. Mais il est arrivé dans une période où l'A'mash faisait la tête à ses élèves, à cause de leur manque de sérieux. Alors, il rentre dans la mosquée, il voit l'A'mash dans un coin de la mosquée, et les autres tombent dans l'autre coin de la mosquée. Il va le voir, alors il n'y a pas cours. Il dit non, chéri, il n'est pas content. Il dit pourquoi? Alors ils lui ont expliqué comme quoi des fois, chéri, il s'énervait et les privait de cours pendant des jours, voire des semaines. Elle lui dit, mais comment je vais faire? Moi, je ne peux pas rester longtemps, il faut absolument que je prenne le hadith chez l'A'mash. Ils n'ont pas rien à faire pour lui. Alors il s'est assis comme ça, il a réfléchi à une stratégie. Après la prière, il a été voir celui qui accompagnait l'A'mash chez lui. Car l'A'mash, il voyait très mal. Donc il y a quelqu'un qui l'accompagnait chez lui, qui le guidait. Il lui a dit, écoute, aujourd'hui c'est moi qui accompagne le shir chez lui. Il lui dit, d'accord. Donc le shir, il arrive, et le talib ilm, il lui prend par la main, et il le ramène. Et il le fait prendre la direction opposée de celle de sa maison. Alors le shir, il marche, il se rend compte qu'il marche longtemps par rapport à ce qu'il marche d'habitude. Il dit, aïna taqo duni. Où est-ce que tu me guides? Vers où tu m'emmènes? Le talib, il lui dit, Amma talib sanase. Bientôt on arrive, sans lui répondre à sa question. Jusqu'à ce qu'il sorte de la ville et se retrouve au milieu de nulle part. Alors le shir, là, il dit, khlas, je m'arrête, je bouge plus. Tu m'emmènes où là? Alors, le talib, il dit, écoute, shir, voilà, je t'ai ramené à l'extérieur de la ville. Il n'y a rien ni personne. Je suis venu de loin et je veux que tu m'enseignes le hadith. Donne-moi quelques hadiths et je te ramène chez toi. L'A'mash a dit, je te donne rien du tout, tu m'emmènes chez moi. Le talib il a dit, écoute, moi je suis convaincu, je suis persuadé et je suis catégorique, tu ne me donnes pas mes hadiths, je ne te ramène pas chez toi. Alors quand l'A'mash il a vu qu'il était déterminé, il a dit, Allah Akhtub, écris. Alors il sort de quoi écrire, Haddathana, 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 qala Rasulullah, hop, il écrit. Deuxième, troisième, il lui donne quelques hadiths. Maintenant il fait, maintenant ramène-moi chez moi. Le talib dit, d'accord. Il marche, et en arrivant dans la ville, le talib discrètement, il donne ce qu'il a écrit à quelqu'un qui était présent, il dit, tiens, garde-moi ça, j'arrive, je vais le récupérer dans pas longtemps. Discrètement, sans que l'A'mash ne s'en rende compte. Il marche, et quand ils arrivent près de la porte de l'A'mash, l'A'mash il attrape brusquement le talib, et crie, ayo an-nas, sariq, un voleur. En gros, il a volé du hadith. Alors, quand les gens ils arrivent, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Il leur raconte l'histoire, et il leur dit, prenez ces scripts, là où il a écrit les hadiths, et donnez-les-moi. Il le fouille, il ne trouve pas les parchemins qu'il avait déjà consciencieusement livrés à quelqu'un auparavant. Alors, l'A'mash, il est énervé, il a perdu sur toute la ligne, il lui fait, de toute façon, tous les hadiths sharifs, ils sont daif. Alors le talib ilm dit là, anta atqa wa ajal min an takdhiba ala rasulillah alayhi salatu wassalam. Alors il lui dit, non, tu es trop noble et pieux pour mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et là l'A'mash il baisse la tête et dit rien et rentre chez lui. Al-Muhim, regardez la détermination de ces gens. Un autre qui vient voir Abu Hanifa, rahimahullah, pour qu'il lui enseigne quelques hadiths. Et Abu Hanifa, il le rejette. Et lui, il insiste. Et Abu Hanifa, il le repousse. Et lui, il insiste. Jusqu'à ce que la colère s'empare d'Abu Hanifa. Et en regardant autour de lui, il saisit une brique. Et là, il frappa la tête de cet étudiant avec. Et lorsqu'il vit le sang couler sur le front de cet étudiant, Abu Hanifa, rahimahullah, se calme. Et il lui tendit la brique et lui dit, refrappe-moi, reprends ton droit. L'homme lui dit, non, je te pardonne pas, yawm al-qiyam. Sauf que tu m'apprends djihad. T'aurais fait quoi toi? Coup de coude. Et j'en passe. T'aurais oublié shir, alam ila akhiri. Illa man rahim Allah. La France, elle est là dans nos entrailles, dans nos veines, dans nos ongles. Et ça, on le remarque, ça. Quand on part à l'étranger, nous ici, on n'a pas cessé marcher sur les pieds, on n'a pas cessé faire. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les phrases qui sortent directes. Et on le fait même à l'étranger. Alors que là-bas, tu vas finir dans un trou, tu vas rien comprendre toute ta vie, tu vas rester dans un trou. Et bien là, le talib ilm lui dit, à une condition, tu m'enseignes djihad, sinon je ne te pardonne pas le mal qu'il y a. Alors Abu Hanifa, rahmoullah, s'exécute, et Allah octobre, écrit, haddathana, haddathana, qala Rasulullah, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Allez, ça fait ça. Quand il finit d'écrire le 10e hadith, le talib ilm cherche autour de lui quelque chose. Abu Hanifa lui dit, qu'est-ce que tu fais? Alors il trouve une autre brique qui lui fait, tiens, mets-moi un autre coup, et enseigne-moi encore djihad. Et là, tu vois la himma de ces gens-là. Tu vois la himma de ces gens-là. Et les anecdotes sont nombreuses. Est-ce que vous pensez que c'était que dans leur jeunesse? C'était toute leur vie. Même Ahmed, rahimahullah, lama biadbat lihiyatuhu, wa hadawda badahruh, la takadu tajiduhu yamshi fi tariq, illa wa ma'ahu ما يكتب به قلم ومحبره وورق وأوراق. Imam Ahmad rahimahullah, lorsque sa barbe devint blanche et que son dos se courba, tu ne pouvais pas le trouver à l'extérieur de chez lui sans qu'il n'ait de quoi écrire avec lui. Des feuilles, un encrier et une plume. Et les gens, ils ont vu vieillir, ils ont dit, Abba Abdillah, il a maté ma al-mihbara. قال مع المحبرة إلى المقبرة. Il dit, Abba Abdillah, tu es vieux, jusqu'à quand tu te baladeras avec l'encrier? Et l'encrier qui est la base et l'outil des enfants, des jeunes qui apprennent à écrire. C'est eux qu'on les voit se balader dehors avec de quoi écrire. Il a dit, avec l'encrier jusqu'au tombeau, jusqu'à la tour. Jusqu'à la tour. Et les ulama, quand ils accueillaient le ilm, c'est-à-dire quand ils étaient devant leur savant, leur professeur, et qu'ils entendaient le ilm, ça faisait quelque chose en eux, dans leur corps, dans leur cœur, qui maintenait cette flamme allumée dans leur cœur. Qila al-Shafi'i rahimahullah, kayfa shahwatuka lil-ilm. On a demandé à Shafi'i rahimahullah, comment décris-nous l'envie que tu as envers la science? Le mot shahwa, c'est un mot fort. C'est une envie physique. C'est une envie physique. Comme on pourrait appeler ça l'appétit. Un appétit. Décris-nous ton appétit de la science. Comment ça se passe? Il a répondu, asma'u bil harf, ay bil kalima. Mimma lam asma'. Fatawaddu a'da'i anna laha asma'an. تتنعم به ما تنعمت به الأذنان. والله كلام جميل وعظيم هذا. Il a dit, lorsque j'entends un mot, une parole que je n'ai jamais entendue auparavant, ça me fait l'effet, c'est comme si tous les membres de mon corps auraient aimé avoir leurs propres oreilles pour se délecter de ce que mes oreilles ont entendu. Allah. Le talib ilm, lorsqu'il apprend la faïda, lorsqu'il est devant son shir et qu'il étudie, et qu'il apprend des choses nouvelles qu'il n'a jamais entendues auparavant, c'est une lazza, la tuqabiluha lazzatun ukhra. C'est un plaisir qui n'est pas au même niveau que les autres. L'apprentissage de la science, avoir les yeux plus ouverts, avoir le chemin plus éclairé, c'est un plaisir. C'est une satisfaction qui n'est pas comparable aux autres. Et après, on lui a dit, quand il a répondu cela, on lui a dit, idan kayfa talabuka lah. Comment dans ces cas-là la demandes-tu la science? Il a répondu, talabul mar'ati al-mudillati waladaha laysa laha ghayru. Talabul mar'ati al-mudillati waladuha laysa laha ghayru. Ils ont dit, comment est-ce que tu demandes la science dans ces cas-là? Elle dit, comme une femme dont l'enfant s'est perdu, comment elle le recherche? Elle n'a que cet enfant-là. Imagine une femme qui a un enfant, elle n'a que cet enfant et personne d'autre. Comment est-ce qu'elle va le rechercher? Elle va remuer ciel et terre pour retrouver la prunelle de ses yeux. Mais tu vois comment cette femme elle recherche son enfant? Eh bien moi c'est comme ça que je recherche la science. Al-himma, la motivation. At-Tabari, rahimahullah, Abu Ja'far, At-Tabari, il a réuni ses élèves un jour, il leur a dit, ça y est, on va écrire un livre dans le tarikh, dans l'histoire, لم يصنف فيه علي في التاريخ مثله. Jamais auparavant on a écrit un livre comme cela. يجمع تاريخ الأمم السابقة. Ce livre-là, il regroupera l'histoire de toutes les communautés qui nous ont précédés. Les élèves, ils ont flippé. Ils ont dit, combien de pages il faudra pour ça? C'est كم ورق؟ قال 100 ألف. 100 000. Ils ont dit, oh là là. إذن تضيع الأعمار قبل أن نصل إلى نهايته. Dans ce cas-là, on mourra avant d'en voir la fin. Alors, At-Tabari, il a raccourci à 10 000 pages. 10 000 pages quand même, c'est pas rien. Lorsqu'ils finirent, il leur dit, bon maintenant, on va faire un kitab dans le tafsir. Et on va réunir dedans tout ce qu'on trouve. Ils ont dit, combien de pages? Il a dit 100 000. Il a interdit l'armar. Dans ce cas-là, on mourra avant de finir. Alors il a fait, ah, matatil himam. Matatil himam. Il a dit, eh ben, les motivations sont mortes. Nous l'aurions dit combien de pages? Allez, 100. Et encore. Il n'aurait pas dit matat, il aurait dit matat fa uhiyat fa dufinat fa matat ukhra, maratan ukhra. Nos motivations sont mortes deux, voire trois, voire quatre, voire plus encore de fois que cela. Si At-Tabari, rahimahullah, à l'époque où il a vécu, dit ça à ses élèves, qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui parmi nous? Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui parmi nous? Le talab ilm, mes frères, ou le ilm, Allah dans le Coran, il a appelé jihad. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis pas aux mécréants. Et combattez par cela, bihi al-ha'una al-a'id ila al-Qur'an. Ou al-Qur'an masdar al-ulum. Bihi par le Qur'an. D'un grand combat. Comment les savants ont conclu ces références à la science? Tout simplement parce que ce verset se trouve dans le surat al-Furqan et qu'il a été révélé à la période mécoise dans laquelle il n'y avait aucun combat entre les musulmans et les mécréants. D'ailleurs, certains savants disent que l'encre des savants a plus de valeur auprès d'Allah que le sang des martyrs. Et l'étudiant, dans sa quête de savoir, il est tel un soldat sur le champ de bataille. Et est-ce qu'un soldat sans armes, il fait long feu sur le champ de bataille? Abad. Et si le soldat se défend avec son épée, eh bien, l'étudiant, il se défend avec son stylo. C'est son arme avec laquelle il avance dans le champ de bataille. Et l'ilm yuqayyad. Wa kayfa yuqayyad bil kitab. Et la science, comment? La science, elle s'attrape, elle se ligote. Comment? Par l'écriture. Comme a dit, غير واحد من أهل العلم قيدوا هذا العلم بالكتاب. قيدوا يعني attachez cette science بالكتابة en l'écrit. Et remarquez, mes frères, que plus les supports permettant de regrouper ou même de faciliter les études sont disponibles au carrir, plus les supports facilitant l'étude sont disponibles et nombreux, et moins on est efficace dans l'apprentissage. Et moins on est efficace dans l'apprentissage. L'arabe, ummatun ummiya, la taqra'u wa la taktu. Les arabes, à la base, étaient une communauté analphabète. Elles n'écrivaient pas et ne lisaient pas. Comme les supports de conservation de la connaissance étaient indisponibles, voire inexistants, ils ont développé leur mémoire. Ils ont développé leur mémoire. À un point où ils étaient capables de retenir de grands flots de paroles en ne les entendant qu'une seule fois. D'ailleurs, certains historiens racontent l'histoire de Abu Ja'far al-Mansouri, un calife abbasi, Après, ils ont divergé, est-ce qu'elle est réelle ou pas, est-ce qu'elle a un sanad ou pas. Nastashhidu biha wa nasta'nisu biha. Donc, Abu Ja'far al-Mansouri avait une particularité, c'est qu'il entendait un poème une seule fois, il l'apprenait par cœur. Et il avait un wazir, un ministre, qui lui entendait le poème deux fois et l'apprenait par cœur. Et ils avaient une jariya, une servante, qui elle entendait un poème trois fois et elle apprenait par cœur. Alors ils ont rusé avec les poètes du royaume. Ils ont fait courir le bruit que si un poète il nous ramène un poème qu'on ne connaît pas, il aura l'équivalent du support sur lequel il a écrit son poème en or. Alors les poètes, ils se bousculaient à l'entrée du palais royal. Chacun comme ça, avec un gros paquet de feuilles ou bien avec de nombreux, avec la matière sur laquelle ils ont écrit leur poème. Le poète, il arrivait comme ça, Abu Ja'far al-Mansouri était sur son trône, à son côté son wazir, et plus loin, caché discrètement, la jariya qui fait style à distribuer des trucs. Le premier poète, il arrive, أنشدت لك قصيدة مطلعها أنت كالشمس كذا وكذا إلى كذا. Il finissait, l'Abbas, Abu Ja'far al-Abbas, il disait, je la connais ta قصيدة. L'autre, comment ça? Attends, je vais te la réciter. Et il la récite à son tour. Ça fait deux fois. L'autre, le wazir, il est à côté. On a dit, il fallait deux fois pour écouter le, pour apprendre la قصيدة. Après, il le fait. Et tu sais quoi? Même mon wazir, il la connaît. Vas-y, récite. Et le wazir il y allait. Apollo, nanana, il sort ce truc. Et pour le tuer, le finish him, il appelle la jariya. Et tu sais quoi? Même ma servante là-bas, elle la connaît. Eh toi, viens. Elle vient quoi, qu'est-ce qu'il y a? Récite le poème. Elle le récitait. Et le poète il devenait fou. Il partait au fin fond du désert, il cherchait, il n'y avait personne, et il écrivait son poème. Et il revenait, et tout le monde l'a récité. C'est pas possible. Ils ont dit, il y a quelque chose, même, c'est pas possible, il y a quelque chose. Ils ont été voir Al-Asma'i, qui est un imam dans Al-Lugha, dans la langue arabe. Il dit, il y a quelque chose. Il a dit, je m'occupe de lui. Mais il était connu. Alors il s'est caché avec un burnous, les djellabas maghrébines actuelles, avec les grosses capuches. Et il a dit, il lui a dit, il est qasida. Alors Abu Ja'far lui dit, vas-y. Hein, vous l'avez sûrement entendu, les enfants ils la chantent aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était une qasida, yani, qui était une preuve de la maîtrise de la langue arabe de l'asma'i. Il dit صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع زهر اللحظ المقال وانت يا سيدي وسيدي ومولاي فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته من وجنة من اثن ورد الخجل فقال لا 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 وقد غدا مهرولي وغرد القمر يطيح ملل انت مللي الى اخره سلو. Il a pris des aouzen, des formes de mots qu'il a cassées pour rendre le poème plus difficile. Pour rendre le poème plus difficile. وَلَوْ تَرَانِ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَهْزَلِي يَمْشِي عَلَى ثَلَاثَةٍ كَمِشَّةِ الْعَرَنْزَلِي وَالنَّاسُ تَرْجِمْ جَمَلِي فِي السُّوقِ بِالْقُلْقُلَلِي وَالْكُلُّ كَعْكَعْكَعْكَعْ خَلْفِي وَمِنْ حُوَيْلَلِي. Ainsi de suite. Allez, tu l'écoutes, t'as mal aux oreilles. Et il a fini. Et Abu Ja'far, il se gratte la tête, il dit, oh là là. Il dit, ah, je la connais pas celle-là. Et Dieu soit dit, toi, tu la connais? Vas-y, il fait, non, là, je la connais pas celle-là. Alors, la jariya se cachait, il fait, tu la connais ou pas? Elle dit, je n'ai jamais entendu parler. Il les a battus. Bon, il a dit, bon, sur quoi t'as écrit ton poème? Il a dit, sur une pièce de marbre. Qui était tellement lourd que j'ai pas pu la porter tout seul. Oh, les gouttes de sueur, elles ont commencé à perler sur le front du khalife, hein. Il a dit, puisqu'il s'est souvenu que l'équivalent devait te donner en or. Il a dit, non. T'es qui, toi? Enlève ta capuche. On t'a reconnu. Et après, il a reconnu l'Asma'i. T'as pas le droit de jouer, toi. C'est pas du jeu pour toi. Al-Muhim, après, il lui a dit, bon, khalas, arrête de torturer les poètes et moi, je renonce à ma récompense. Al-Muhim, tout ça pour vous dire que moins il y a de support, plus la mémoire elle est kawiyya. Plus la mémoire elle est forte. Et plus il y a de support, et moins elle sera forte. Wallah, mes frères. On a des stylos de toutes les couleurs. On a des feuilles cartonnées, des feuilles blanches, des feuilles calques, des feuilles millimétrées, des feuilles avec des trous. On a des feuilles de toutes les sortes. Dès qu'il y a de brouillon, dès qu'il y a spirale, des petits carreaux, des grands carreaux, on a du tipex, on a des crayons qui se gomment, on a tout. Zid ala hada. Ça, avancée technologique qui a facilité la vie de l'étudiant, là. Catastrophe technologique qui a tué l'étudiant, le MP3. T'as des frères, ils viennent te voir, ils te montrent leur truc. Tu sais, il y a combien de doses de Cheikh Fawzan là-dedans? Il y a 6 gigas. Oh, mashallah. T'en as déjà écouté un? Non. Il en écoute un, 2 minutes. Ah, j'écoute le deuxième. Un, 3 minutes, le troisième. C'est pas comme ça, franchement. Ou bien les frères, ils vont dans Islam Web, un site où tu peux télécharger du Coran et tu les cherches tous les masahifs. Mashaf Cheikh Soudais, Mashaf Al-Shurey, Mashaf Al-Boudeir, Mashaf Kada, Mashaf Kada. Demande-lui s'il a déjà écouté un Mashaf entier d'un Cheikh. Franchement. Et les frères, ils sont comme ça. Hein? Pendant le dors, prennent pas de notes. Soit assis comme ça, tranquille, contre le mur. Regarde l'heure. Et prennent pas de notes. Pourquoi? Ah, c'est bon, le dors, il est enregistré, je l'écouterai plus tard chez moi. Et tu l'écoutes chez toi, tu manges des chips, tu te peignes, tu changes de vêtements. Et si tu es en train de parler dans la cassette comme ça, ça te fait rire quand il sort des blagues, et après le reste, tu l'oublies. أي نعم سي وسائل وإن كانت معينة فهي في الحقيقة قاتلة سي موين même si ils aident c'est vrai ils aident y a rien à dire c'est نعمة ces choses là حبذا لو خدمت في النافع si seulement elles étaient servies on s'en servait à bon escient c'est comme internet les frères ils viennent te voir ils font ah, tu l'as la maktaba al-shamila tu l'as la maktaba al-ahl al-afar. Il y a toutes les paroles des savants, elles sont répertoriées, tu mets un clic par-ci, clic par-là, copier-coller, t'as tout. Et je me rappelle, Cheikh Souhaïmi, hafidahullah, on l'avait eu au téléphone, il y a ça maintenant à peu près 10 ans, on lui a demandé des conseils pour apprendre la science. Il a dit, « Yaakoum wa mazbalatun net ». Il a dit, « Prenez garde à la décharge, la poubelle de l'internet ». Il a dit, « Vous avez tout ?» Et on attend toujours le alam qui sort d'internet. Ya Allah, sort d'internet le alam. Il y a tout. Il y a les doros en direct des savants. Il y a tout. Et pourtant, malgré ça, on y croit, on est comme ça, dans son ordinateur. Pas le talk. Tu fais talab al-ilm, mais tu sais, tu fais pas talab al-ilm. Tu te fais croire que tu talab al-ilm, mais c'est pas du talab al-ilm. C'est du vite fait. C'est du virtuel. C'est du talab al-ilm virtuel. Le talab al-ilm, c'est des cernes sous les yeux. C'est des os qui claquent dans ton dos. C'est des doigts usés par la prise du crayon. C'est ça, par la boulim. Yahya ibn Kathir, rahimahullah, comme il rapporte Muslim, il disait, la yunalu l'ilmi birahatil jismi. La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. Quand t'es comme ça, les doigts de pied en éventail, en train de manger des chipsters de Belin et boire un petit oasis tropical, ta femme te raconte sa vie, tu dis, ouais, c'est vrai, sérieux. Et le chir, pendant ce temps, il parle. Ça vous fait rire? Moi, j'étais étonné de voir, quand je vais en Arabie, au Doros des Chouyour, les frères sont comme ça, allongés, ils parlent entre eux, le chir est à côté, il parle. Téléphone, il sonne, il prend son téléphone, il parle normal. Ouais, tu vois, ah, t'es au Berger, attends, j'arrive. Cheikh, il parle, on dirait, ma voix, c'est la même chose. Comment il est chez lui devant son PC? Eh ben, il est comme ça devant le Cheikh. Vous assure que j'ai vu des frères dans une halqa, elle était immense. Dans un dars d'un Cheikh, hein, je ne sais plus lequel, au Madinah Nabawi ou ailleurs. Le Cheikh, il assure qu'on parlait. Et normal, le téléphone, il sonne, il n'est même pas en vibreur. Il prend, il répond. Ouais, t'es où? Et comme par hasard, il prend l'enfance. T'es à Medine, il y a toutes les nationalités confondues. Et je suis à l'obéissance en français, et ben c'est en français. Ouais, t'es où là? Ah, oh, j'arrive. Et puis pas. Et après, quand il va venir en France, il va dire, moi j'étais au dors de Cheikh Abad, Cheikh Souhaimi, Cheikh Lubeid, Cheikh les autres. Ah, fais d'armes. Ah bon, t'as fait, c'était quoi le dors? Je me souviens plus. Wallah, ya ikhwani, la himma, elle est muhimma jidden. Si la tashhadouna himamakum, لن تبلغ القمة أبدا. Si vous ne négligez pas vos motivations, vos envies, votre enthousiasme, jamais vous n'atteindrez le sommet. Jamais vous n'atteindrez le sommet. Al-ilm. Bahrun muntahahu yab'udu. ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر أن يجمعه. العلم بحر. La science c'est une mer, un océan. منتهاه يبعد. Dont la fin, l'autre rivage est extrêmement loin. ليس له حد إليه يقصد. Il n'y a pas une limite que l'on puisse avoir comme objectif. Et la limite, c'est ça, bon, je vais arriver là-bas. Il n'y a pas de limite dans l'ilm. Et jamais tu n'arriveras à retenir toute la science. Bien sûr, ne serait-ce même pas le dixième. Qu'est-ce que la science est nombreuse? Et qu'est-ce qu'elle regroupe toutes choses? Qui est capable de la regrouper à son tour? العلم إن أعطيته كل كلام يعطيك بعض يعطيك لا يعطيك نعم العلم إن أعطيته كل كلام يعطيك إلا بعضه ونقلا من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. العلم إن لم تعطيه كلك. La science, si tu ne donnes pas toute ta personne, لا يعطيك إلا بعضه. Il ne te donnera لا يعطيك إلا بعضه. يعني si toi tu donnes toute ta personne à la science ne te donnera à son tour qu'une partie d'elle. Une partie. Et si tu lui donnes une partie de toi, elle ne te donnera rien. Elle ne te donnera rien. وقيل من لم تكن محرقة بدايته. Celui dont le début n'est pas brûlant. من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. Sa fin ne sera pas lumineuse, ne sera pas éclairée. Le feu, il sert à éclairer la voie de celui qui est dans les ténèbres. Celui qui ne se brûle pas au début avec le feu qu'il allume, eh bien jamais ce feu n'éclairera quoi que ce soit pour lui. Al-ilm, mes frères, ashrafu ma yutla. Ça, mettez-le-vous en tête. Mettez-vous-le en tête, pardon. C'est la chose la plus noble que l'on puisse rechercher. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a fait des savants ceux qui le craignent le plus. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Certes ne craignent Allah parmi ses serviteurs que les savants. وَالْمُرَادُ بِالْخَشْيَةِ هُنَا الْخَشْيَةُ الْكَامِلَةِ. La vraie crainte. Et est-ce que ceux qui savent sont comme ceux qui ne savent pas? Après cette courte de 58 minutes, introduction concernant la himma, la motivation, l'enthousiasme. Comment on fait? Ya Allah, vous êtes motivé maintenant pour apprendre l'ilm. Qu'est-ce qu'on doit faire? Des marahis. Il y a des étapes. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Première chose, la langue. La langue arabe. La langue arabe dans toutes ses formes. Que ce soit dans la grammaire, la conjugaison, la rhétorique. Nahw wa sarf wa al-balagh. Nahw wa sarf wa al-balagh. Wa al-lughah al-arabiyyah. Miftah. Taftah bihi abwab al-ilm. Wa tafhamu المراد من كلام الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. La langue arabe, c'est une clé avec laquelle tu as accès à toutes les sciences. Et c'est par elle, par son biais, que tu comprendras le sens de la parole d'Allah ainsi que de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. La langue arabe, elle a des outils pour qu'elle soit maîtrisée. Et wallah, mes frères, lam nara anfa'a min tariqati al-qudama fi
تعلم اللغة العربية.
On n'a pas vu meilleur pour apprendre la langue arabe que la façon de faire des anciens.
Quand vous cherchez dans les kutub comme Kitab al-Ilm, le Cheikh al-Uthaymin, rahmatullahi alayh, il donne 3 livres pour la grammaire. Il commence avec Al-Muqaddimatu al-Ajurrumiyya, ma'ruf, hein. Ensuite, Qatr al-Nada, d'Ibn Hisham, et enfin Al-Fiyyat ibn Malik, ou Ibn Malik. Ça, c'est dans la grammaire. C'est vrai que pour rentrer dans l'Ajurrumiyya, il faut un minimum. Personnellement, je conseille, ça ne reste qu'un conseil, de faire, vous prenez le livre Al-Nahw al-Wadih, qui se divise en 3 parties, vous faites la première seulement. Vous faites la première seulement. Comme ça, vous aurez des notions dans la grammaire. Fa'il, maf'ul bihi, mubtada khabar. Phrase nominale, phrase verbale. Ensuite, ça va vous paraître étrange ce que je vais vous dire, mais rentrez dans l'ajrumiyya. Des fois, des frères, tu leur dis, l'ajrumiyya, oh, t'es fou, c'est trop balèze. Et là, ils croient, mais c'est pour les enfants, l'ajrumiyya. C'est pour les enfants en primaire dans un pays arabe, l'ajrumiyya. Tu prends un enfant de primaire qui sort de CM2, eh ben, il a tout ce qui est dans l'ajrumiyya. C'est pour al-mubtadi'in. C'est pour les débutants. Maintenant, ne crois pas que tu vas étudier le livre une seule fois et que tu le maîtriseras. Abadan. Dites-vous, mes frères, que pour estimer maîtriser un livre, il faut le faire de nombreuses fois consécutives. Et plus le charh, plus l'explication du livre sera détaillée et plus tu l'auras maîtrisé. Il y a des shuruh muyassara, des explications facilitées, comme celle de Mohamed Mouhyiddin, le ma'rouf avec Tuhfati As-Sinniya, le Sharhi Al-Ajrumiyya. Il y en a des mutawassifah, comme celle de Cheikh Al-Uthaymin, et d'autres qui sont plus corsés, comme Al-Mutammima, ou d'autres livres de ce genre, comme Al-Kawakib. Mais personnellement, celle de Cheikh Al-Uthaymin est largement suffisante. Et après, vous allez me dire peut-être que vous n'allez pas suivre tout le cours. C'est pas grave. Faites-le jusqu'à la fin et recommencez-le une deuxième fois. Il y aura moins de choses difficiles pour vous. Et s'il reste des choses que vous n'aurez pas encore maîtrisées, c'est pas grave. Faites-le une troisième fois. Il y aura encore moins de choses. Wahakada. Wahakada et ainsi de suite. Entre 3 et 5 fois le livre, tu le fais entièrement. Avec quelqu'un qui t'explique bien le livre. Et je t'assure que tu y arrives. Ensuite, tu passes à Qatr al-Nada wa Ballu al-Sada d'Ibn Hisham. Qui lui aussi est pour le Mubtadi'in. Ça, c'est ce qu'il dit Ibn Hisham. Qui lui aussi est pour les débutants. Le Mubtadi, c'est le débutant. Mais il est plus corsé que Al-Ajrumiyya. Ça, c'est vrai. Al-Haqq yuqa. Il est plus corsé que l'Ajrumiyya. Mais il est plus ladi. Mais il est plus, il a un meilleur goût, entre guillemets. Il est plus savoureux, plus onctueux. Yani les fawa'id al-lughawiyya qu'on y trouve, elles ouvrent plus les yeux que dans l'Ajrumiyya qui est la grammaire mahda. La grammaire brute. Et كذلك القطر tu le fais pas qu'une fois. Le frère qui vient te voir et tu dis j'ai fait usul salata, j'ai fait kitab tawhid, j'ai fait tel livre, combien de fois? Une fois, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Le qatr 3 fois à 5 fois minimum. Et plus vous le faites, mieux c'est. Et ensuite az-zubda, soit tu mets une marhala mutawassita, allez si tu veux. T'as peur un petit peu de rentrer dans l'alfiya, fais un autre livre. Alors soit tu auras Al-Hariri, comment ça s'appelle, Mulhat Al-I'rab de Al-Hariri, ou bien t'as
Durratu al-Yatima de Sa'd ibn Sa'id al-Hadrami, ou bien des livres comme ça, des poèmes qui regroupent les règles de la grammaire, qui reprennent plus ou moins ce que tu as vu dans l'Ajrumiyya et dans Qatr al-Nada. Et après tu passes à l'Alfiya. Alfiya ibn Malik, qui est un poème de 1000 vers qui regroupe les règles de grammaire et de sas, de conjugaison. 1000 vers. Moi, je vous assure, pour ceux qui ont déjà écouté les cassettes de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans lesquelles il explique Al-Ajrumiyya ou Al-Alfiya ibn Malik, je vous assure, t'écoutes le dars chez toi, et tu entends le Cheikh poser des questions, et t'entends la voix des tollabs qui sont présents, qui répondent. Il y en a plein, ils sont à l'ouest. Il y en a plein, ils répondent n'importe quoi. Hein. Je vous assure. Je dis pas ça pour critiquer les élèves qui étaient présents, mais pourquoi je vous dis ça? Pour vous faire comprendre que tout le monde assistait aux danses de Cheikh Al-Uthaymin. Et pourtant, ces gens-là, en général, ils étaient présents, ils ont grandi dans des écoles arabes où ils ont appris la grammaire. Et malgré ça, dans le danse du Cheikh, il donnait un i'arab, une analyse grammaticale, et t'entendais tout et n'importe quoi. Je vous qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je vous dis ça? Il leur disait pas, allez, c'est bon, son nom. Lève-toi et va voir ailleurs si j'y suis. Il est laissé présent. Shilqiti, Mohamed Al-Amin, Sahib Al-Adwa, il disait la même chose. Il avait des majalis dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, où il est tafsir. Et lui, il sortait tout ce qu'il avait comme fawa'id. Et je vous assure que Shilqiti, rahimahullah, c'était un bahar. C'était un océan. C'est impressionnant. Une aya min ayatillah. Un signe d'Allah Azza wa Jalla, cet homme-là. Il donnait tout ce qu'il avait. Et les tollabs, c'était trop fort. Ils prenaient des notes, ils ne comprenaient pas, ils se regardaient perplexes, qu'est-ce qu'il a lancé de l'arabe. Et un jour, ils ont été le voir, ils ont dit, Cheikh, aktharta alayna. C'est trop. Khalil, on n'arrive pas à suivre. 10 minutes. Il a dit non. Il a dit, moi, je vous donne tout ce que j'ai, et vous prenez ce que vous pouvez. Est-ce que tu as pris toi? C'est parce que lui l'a pris. Est-ce que lui l'a pris? C'est parce que lui il a pris wahakada. Chacun il prend ce qu'il peut. Et après le dars, vous vous réunissez et vous vous complétez les uns les autres. C'est comme ça que ça marchait à l'ancien. Et le fahm ou le mafahim tartalif. La compréhension diverge d'une personne à l'autre. Peut-être que j'aurai un frère devant moi qui aura fait tel livre entièrement et un autre qui n'a jamais fait de grammaire, qui a vraiment des notions élémentaires, mais très très limitées, peut-être que je vais expliquer une règle et que le deuxième, il comprendra mieux que le premier. Al-Muhim, ne vous laissez pas abattre par une mauvaise compréhension ou bien par une absence de compréhension. Oh, j'en ai marre, je ne comprends pas. Oh, j'arrête la grammaire, ça me fait mal à la tête. C'est difficile, je laisse tomber. On raconte qu'un homme passait ses jours et ses nuits à étudier la grammaire. Il se tirait les cheveux. Il y arrivait pas. Mais il voulait y arriver. Mais plus il avançait et plus il se rendait compte qu'il faisait du surplace. Un jour, il en a eu marre. Il a dit, laisse tomber. La grammaire, c'est pas pour moi. Et il ferme son livre. En fermant son livre, il remarque une fourmi qui passait devant lui avec sur son dos une miette de pain. La miette de pain pour la fourmi, c'est gros, c'est grand. Et la fourmi qui porte cette miette, difficilement, suit un chemin, un itinéraire. Et sur son itinéraire, voici qu'elle se retrouve face à un caillou qui, toi, d'une pichenette, tu l'envoies loin. Mais pour elle, c'est une montagne. Alors, l'étudiant, il regarde la fourmi, il se dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va contourner l'obstacle ou bien est-ce qu'elle va le surmonter? Mais les fourmis, comme vous le savez, elles suivent un itinéraire et elles ne s'en éloignent pas de peur de se perdre. Alors, elles commencent à escalader là, le caillou, difficilement. En arrivant au sommet, la miette de pain est tout. Alors la fourmi, elle fait marche arrière, elle descend, elle reprend la miette de pain, elle remonte. Pareil, en arrivant au sommet, elle tombe à nouveau. Elle rebolote, elle redescend. 3 fois. Pareil, elle retombe. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Et l'étudiant, il a cette salacette. Et il se dit, mais lâche l'affaire, ça n'arrivera jamais. Et la fourmi, elle continue. Elle continue. Elle continue jusqu'à ce qu'elle arrive à surmonter l'obstacle. Jusqu'à ce qu'elle arrive à passer. Et il dit, subhanallah. Une fourmi qui insiste et persiste jusqu'à ce qu'elle puisse passer l'obstacle. Et moi, j'abandonne. Wallah, je vais continuer. Il a rouvert son livre et il a continué à étudier jusqu'à ce qu'il devint un imam dans la grammaire. Jusqu'à ce qu'il devint un imam dans la grammaire. Hein? Comme je disais à certains frères, on a tous une boîte 5 vitesses. Il y en a, ils sont en première, d'autres en deuxième, d'autres en troisième, d'autres au point mort, d'autres en marche arrière. Faites pas la marche arrière, frère. Il faut juste trouver les moyens de passer les vitesses. Ne vous impatientez jamais. Le talib ilmi doit s'armer de patience. قال أحد السلف طالب العلم يحتاج إلى ثلاثة أشياء إلى عمر نوح وإلى مال قارون وإلى صبر أيوب. Ils ont dit, les salaf, l'étudiant dans la science a besoin de trois choses. De la vie de Nuh, Umir, alayhi salam. Yani il a vécu longtemps. Plus de 1000 ans. Et le talib ilmi a besoin d'une longue vie. Deuxièmement, مال قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون faisait partie du peuple de Moussa. Et nous, فبغى عليهم يعني il s'est rebellé contre eux. وآتيناه من الكنوز. Nous lui avons donné des trésors dont seules les clés de ces trésors s'obtiennent de la part des plus forts par la force. De la part des plus forts par la force. Allez, pour obtenir les clés de ces trésors, il faut faire une énorme bataille avec les gens les plus forts. Donc si ça c'est l'état des clés, que dire des trésors? Pharaon était immensément riche. Et le talib ilmi, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour voyager, aller prendre la science des savants et pour pouvoir subvenir à ses besoins lorsqu'il sera à l'extérieur, lorsqu'il ne sera pas chez lui. Et troisièmement, à la patience de Ayyub alayhi salam. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. En parlant d'Ayyub, Allah Ta'ala fait ses éloges en disant que certes, nous l'avons trouvé patient. Il patientait. Il patientait. Et c'est comme ça que Talib Ilmi doit faire. Et il doit rester digne. Et ne pas tendre la main. On rapporte que l'imam Ahmad, rahimahullah, pendant un moment, a tellement pas trouvé de quoi acheter de l'eau, qu'il buvait l'eau des chemins. Vous voyez quand les femmes, elles font le ménage chez elles, et qu'elle verse de l'eau pour faire partir la poussière. Et ça fait un petit ruisseau comme ce qu'on trouve au bord des trottoirs avant que ça tombe dans les égouts. On a vu l'imam Ahmed boire de cette eau-là. Parce qu'il n'a rien trouvé d'autre à boire. Quand cette eau-là, ils l'ont vu, ils ont éprouvé là, ils ont compati à son égard et ont réuni de l'argent pour lui donner une aumône. Il dit, tiens, cheikh, pour toi et ta famille. Il a dit, Wallah, jamais je prendrai de l'argent pour une chose que je n'ai pas méritée. Yani pour quelque chose que je n'ai pas travaillé pour l'avoir. La dignité. Al-Muru'a. La dignité de l'homme. Ils ont insisté, Chir, mais regarde dans quel état tu as une famille, tu dois t'en occuper. Il a dit, Abadan, je ne l'accepte pas de l'argent si facilement gagné. Alors ils ont insisté, leur a dit, bon, je vous propose un marché. J'ai à la maison des livres que j'ai recopiés. Hein, vous savez, c'est là que vous parlez de recopier les livres. Ça c'est marrant chez les salafs, ils le faisaient tous. Ils recopiaient les livres. Ils n'avaient pas le choix. Pas de photocopieuse. Pas de maktabat qui te les vend en 100 exemplaires. Il y en a un, et il faut le copier. Il leur a dit, j'ai des copies de tel livre et tel livre que j'ai fait chez moi, je vous les échange contre cet argent. Comme ça, je ne l'aurais pas pris sans avoir travaillé pour. Je vous donne une opinion personnelle, je n'engage rien ni personne, mais personnellement, quand j'entends des textos ou bien des mails qu'un frère, il est parti dans tel pays étudier la science et qu'il n'a pas d'argent, qu'on fait une quête pour lui, je l'efface. Je l'efface. Les hommes, al-rijal, ils ont leur dignité. Des fois, c'est vrai, ça ne vient pas de leur propre initiative. C'est des frères qui sont au courant de leur situation et qui veulent faire un bien pour lui, ramasser de l'argent pour lui envoyer. Mais des fois, je vous assure, ça vient d'eux. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour que lui, il soit là-bas, excusez-moi le terme, pour la plupart du temps, à se tourner les pouces, et que moi, je lui envoie de l'argent, alors qu'il est jeune, qu'il est fort, capable de travailler, gagner l'argent lui-même, là. Il y a un shart, une condition pour ma tarif al-zakat. Il y a une condition pour que la zakat soit attribuée aux pauvres et à tous ceux qui rentrent dans le verset. An yakuna al-faqiru ghayra qawiyyin wa muktasab. Ou muktasib fi ihda al-riwayat. Il y a deux hommes qui sont venus voir le prophète, alayhi salatu wasalam, une fois, je vais donner la zakat. Le prophète leur a donné, en leur disant, si vous n'êtes pas capable physiquement de gagner vous-même votre argent, ou bien Ali Rani, c'était pas Kawi. Donc si vous n'êtes pas capable physiquement de gagner l'argent vous-même, et si vous n'avez aucune expérience professionnelle, alors vous y avez le droit, en leur donnant. En leur faisant comprendre que si ce n'est pas le cas, vous n'y avez pas le droit. Retournez au Kutub des Fiqh, vous verrez vous-même qui a le droit à la zakat et qui n'y a pas le droit. Et très souvent, wallah, il y a des frères, on les a connus, on les a vus, ou des fois on les rencontre eux-mêmes, ils étaient dans le plus bas degré de la pauvreté. Et wallah, ils ne demandaient rien à personne. Ils ne demandaient rien à personne. Ils étaient humbles et dignes. Même dans la pauvreté, ils gardaient la tête haute. Et ils ne se rabaissaient pas à demander aux autres. Et Allah Ta'ala yarzuquhum min haythu la yahtasibun. Et Allah Ta'ala les nourrissait, leur donnait leur subsistance sans qu'ils ne s'y attendent. Un matin, on frappe à leur porte. Tiens, c'est pour toi. On ne sait pas d'où ça vient. Quelqu'un nous a dit, c'est pour Foulen. C'est pour toi, on te ramène. Et de l'argent. Avec lequel il restait un certain temps. Al-Muhim, on doit être digne et patient. Et celui qui prend l'initiative de partir étudier la science, Faliyatazawad, qu'il prenne des provisions. Même Shish Bidoun Zed, qui ne parte pas sans provision. Comme il faisait à l'époque avec le bâton au bout duquel on trouvait le, je sais plus quoi là, les couvertures, il partait comme ça, comme Tom Sawyer à l'époque là. Là, aujourd'hui c'est des masarif aujourd'hui. C'est des dépenses. Tu payes le loyer, tu payes les factures, et tu dois payer le transport, et tu dois payer l'école, si tu t'inscris dans une école, et ainsi de suite. Al-Muhim. L'arabe, ce n'est pas que la grammaire. Il y a aussi As-Sarf. As-Sarf, c'est la conjugaison, ce qu'on traduirait en français par la conjugaison. Même si en arabe, c'est plus général, car ça concerne autant les verbes que les noms. Et j'ai remarqué en France, dans les cours d'arabe qui sont donnés ici et là, que cette matière est très très négligée. Elle est très très négligée. Et c'est rare qu'on trouve un frère qui fait un cours de sarf dans une mosquée ou dans une école. C'est soit du ta'bir, soit du nahou. Soit de l'expression, soit de la grammaire. Et c'est un mars. C'est un manque. Il faut étudier la conjugaison. Savoir former les mots en arabe. Car la conjugaison, elle est arabe. C'est comment la dernière lettre du mot, quelle sera la voyelle? Fatha, damma, kasra, waw, alif, ya, ou bien had. Donc le nahou, ça ne concerne que la fin des mots. Ma'rifatu awakhir al-kalimi, l'ikhtilaf il-awamil al-dakhilati alayha lafdan aw taqdira. Ça, l'i'rab. C'est la connaissance de la fin des mots en fonction des agents qui les précèdent. Rafi', nasib, jazim, jar. Maintenant, le reste du mot, comment tu fais toi pour lire sans les voyelles? D'ailleurs, les frères, quand tu leur donnes un texte, ah, il n'y a pas les voyelles. Ah bah oui. C'est vrai, il n'y a pas les voyelles, j'avais oublié. Il vous faut le millénium. Maintenant, il faut même, on vous met même des couleurs. Mais jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où ira-t-on? Le frère, il n'y a pas les voyelles, bah, il apprend à lire sans voyelles. Comment on fait? Apprends la grammaire et le sarf. La grammaire te permettra de mettre la dernière voyelle du mot et le sarf le reste. Et le sarf le reste. Dans la langue arabe, on a ce qu'on appelle ma huwa qiyasi wa ma huwa sam'i. Al qiyasi, c'est ce qui répond à des formes, des awzan, des échelles. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Et j'en passe d'autres. Et de ces verbes, on tire certains noms. Al-mushtaqat, min al-asma. Asma al-asmu al-fa'il, wa asmu al-maf'ul, wa sighatu al-mubalagha, wa asmu al-tafdhil, wa sifatu al-mushabbaha. Et j'en passe d'autres. Et tu rentres là-dedans. Et c'est un autre bahar. Et c'est magnifique. Et tu comprends la nuance qu'il y a entre telle forme et telle forme. Exemple. Quelle est la différence entre kharaja et akhraja? Kharaja, fi'il, lazim. C'est un verbe intransitif. Sortir. La yahtaju ila maf'oul. Il n'a pas besoin d'un complément. Kharaja al-rajul, jumla mufida. L'homme est sorti, khalas, pas besoin de complément. C'est une phrase ayant un sens. Akhraja, udkhila fihi, fil fi'li, hamzatu, ish, at-ta'diya. Hamzatu, at-ta'diya. Ha, ha. أخرج الرجل يكفي ما يكفي يحتاج إلى مفعول أخرج الرجل يده من جيبه مثلا خرج il est sorti verbe intransitif il n'a pas besoin de complément أخرج avec le A la hamza قطع qui est au début قطع pardon c'est ce qu'on appelle la hamza qui donne la transition donc le verbe il devient transitif et a besoin maintenant d'un complément si je dis l'homme a fait sortir et je me tais la phrase n'est pas complète elle a besoin d'un complément. Et quand on apprend les différences de forme des verbes en fonction donc de leurs échelles, on apprend aussi la nuance du sens. وَالْفَرْقُ فِي الْمَبْنَى فَرْقٌ فِي الْمَعْنَى كَمَا قَالُوا La différence dans la forme du mot, ce sera forcément une différence dans son sens. Ce sera forcément une différence dans son sens. Et comment est-ce qu'on apprend les différences en fonction des formes du mot dans la troisième matière? Al-balagha. Al-balagha, c'est la zoubda. C'est la zoubda, c'est la crème. C'est la cerise sur le gâteau. Alors, déjà, on se plaint du fait qu'on ne trouve pas de cours de sarf. Je ne parle même pas de cours de balagha. La rhétorique. L'art de savoir convaincre les autres. Ou au moins, l'art de faire comprendre à ton interlocuteur ce que tu ressens en toi. C'est ça, al-balagha. C'est savoir se faire comprendre. Khayrul kalami ma qalla wa dal. La meilleure des paroles est la plus courte et la plus indicative. Indicatrice, indicative. Indicative. Donc mes frères, l'apprentissage de la langue arabe est extrêmement important. On a demandé à Cheikh Muqbil rahmatullahi alayhi combien de temps le talab ilm devrait lui consacrer. Il a dit 2 ans. Mais remettez cette parole dans son contexte. 2 ans complets. D'accord? C'est pas un cours par semaine dans la mosquée et ça dure 1 heure avec Abbas ou avec Kamel. Là, c'est 2 ans. 365 fois 2. Vous demandez pas ça fait combien, je sais pas. 2 ans. Et n'oubliez pas qu'il s'adresse à des arabophones. Ça veut dire nous? Allez, on va pas vous tuer non plus 20 ans, non. On va dire 4 ans, 5 ans. Sérieusement. Et plus tu es motivé, plus t'en donneras, plus t'en voudras, et plus Allah t'aidera, et tu sortiras la tête de l'eau, plus vite que tu ne le pensais. Quand vous apprendrez la langue arabe, et que vous la comprendrez, et que vous aurez un minimum dans ces 3 matières, la grammaire, la conjugaison et la rhétorique, ça ne suffit pas. Il faut maintenant remplir sa banque de données, Et franchement, les frères, excusez-moi, vous allez me dire, je vous plains de tous vos programmes, Mais les petits textes dans les livres de médecine ou bien dans les autres livres, c'est nul.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kayfa haluka ya akhi? Ana bi khairin wa ant. أنا بخير ما اسمك يا أخي اسمي إسماعيل ومن أي البلد أنت قادم أنا قادم من اليابان سبحان
tu vas apprendre quelque chose avec ça billah alek tu vas pouvoir lire dans les kutub d'Ibn Taymiyyah d'Ibn Al-Qayyim avec des trucs comme ça non c'est pas comme ça si tu vas apprendre à parler en arabe ce genre de discours va dans un pays arabe et parle arabe avec les gens après perdre son temps à prendre des discours comme ça des discussions comme ça ma yalfa. J'ai vu des frères pendant des années lire ces textes des dizaines de fois et ils ne savent toujours pas parler en arabe. On les a vus, on ne les compte plus. Là, le vocabulaire, il se prend sur le tas. Il se prend sur le tas, lis, lance-toi, prends les rasaïls, les petites rasaïls, les petits épîtres, les petits livres. Prends-les. Prends-les et lis-les. Arme-toi d'un stabilo fluo. Et fluote chaque fois que tu ne comprends pas un mot avec tes abdounours à côté, tes dictionnaires. Et chaque fois que le mot tu ne comprends pas, eh ben t'écris la définition. Je te rassure, au début ton livre il sera entièrement fluo. Ce sera mal aux yeux. Mais ne t'arrête pas la première fois, jamais. Ce livre, quand tu auras fait le premier passage avec ton dictionnaire, prochaine étape, le relire en essayant de ne pas revenir aux notes. Chaque mot. Deux fois. Troisième étape, le relire. Dans le but de ne pas s'arrêter une fois, car tu as compris tous les mots. Trois fois, quatre fois, cinq fois, le nombre de fois qu'il te faut. Si tu y arrives, tu verras. Passe, après prends une seconde risale, une troisième, une quatrième, et avance un petit peu comme ça. Après passe à d'autres, des livres un peu plus, pas épais, mais un peu plus grands. Et choisis des savants, des écrivains, dont le style il est simple. Le style il est facile à comprendre. On va pas prendre directement les livres d'Ibn Taymiyyah ou d'Ibn Al-Qayyim. Là. Tranquille. Hein? Talib al-ilm yabda bi sarir al-ilm qabla kibarihi. L'étudiant, il commence avec la petite science avant d'arriver à la grande. Yani la science pour les petits avant d'arriver à la science pour les grands. Donc, et ainsi de suite. C'est ça le vrai vocabulaire. Et ne te contente pas seulement de lire et d'écrire, mais écoute. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Ils partaient dans le Bawadi. Le Bawadi, c'est les campagnes. Et ils côtoyaient les ruraux, ceux qui ne vivaient pas en ville, pour prendre d'eux l'arabe le plus pur. C'est pour ça qu'on appelle ça Sam'i. C'est la deuxième catégorie. C'est celle qui ne répond pas à une règle précise. Il faut l'avoir entendu pour le connaître. Comment tu sais comment ça s'écrit Ankabout? Les harakats à mettre. Il n'y a pas un wazn khas, fa'la loul. D'accord. Lakin, trouve-moi un autre mot sur ce wazn-là. Al-Muhim, il y a des mots, il faut les entendre. Et, alhamdulillah, les cassettes, c'est pas ça qui manque. Allah, sortez vos MP3, sortez. Écoutez les douros. Et choisissez des chouyours qui sont plus éloquents que d'autres. Et être plus éloquent qu'un autre, ça ne veut pas dire que l'autre, il n'est pas éloquent. Là. Si toi et moi on a faim, et que moi j'ai plus faim que toi, ça veut pas dire que t'as pas faim toi. Et des fois on remarque des chouyours qui se démarquent sur d'autres par leur éloquence. Par leur éloquence. Après ça revient aux autres. Hein, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et il y a des chouyours qu'il ne faut pas non plus oublier, des chouyours qui adaptent leur façon de s'exprimer en fonction du public qu'ils ont devant eux. Adressez-vous aux gens en fonction de leur mental. On peut parler avec du faux haqouh, c'est-à-dire le plus haut degré de l'arabe littéraire, alors que devant nous, on a des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. On va adapter notre langage aux gens qu'on a devant nous. Mais il y a des chouyours, personnellement. Après, je vous ai dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais il y a une façon de savoir, c'est quand tu retranscris. Tu écoutes un dars, mathalan, et tu le recopies. Et bien, il y aura des chouyours, tu n'auras pas besoin de reformuler certaines phrases, parce que tout ce qu'il a dit était parfait. En termes de règles grammaticales, en termes de forme de phrase, et ainsi de suite. Exemple, le Mufti. Abdelaziz al-Sheikh, hafidahullah, quand il fait un dars, on dirait qu'il lit un livre. Autre exemple, Cheikh Ubayd Jabiri, hafidahullah. Kedalik. On sent une fataha, malaka, une maîtrise. On dirait tu il y a un. والشيخان المذكوران آنفا أعميان. Les deux sont avec, subhanallah. Faut pas que tu dises il est vraiment lui. D'autres exemples, Salih al-Sheikh. Lui, je trouve trop lui. Des fois, t'as du mal à suivre. Autre exemple, Sheikh Sulaiman al-Ruhayli. Ah, t'écoutes des doros à lui, Achille. Dans le Fasaha ou le Balagha, c'est impressionnant. Et ainsi de suite. Tu vois, mon Kusur ou Alhamdulillah, ils sont très nombreux. Mais c'est personnellement des préférences que j'ai concernant là, ce point-là. Taïf. Ça aide beaucoup. Écoutez les doros. Ne vous dites pas, je comprends rien, ça sert à rien. C'est faux, ça servira jamais à rien. Non. N'oublie pas ta himma. Et sois tamouh. Shmaana tamouh, ambitieux. C'est l'ambition. Le moteur de ta motivation. Je veux y arriver. Mais il faut que ton ambition soit précédée par la bonne intention. Je fais ça pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Je m'en fiche du reste. Si je suis tout seul chez moi et je comprends l'arabe, et Allah est satisfait de moi, je suis plus heureux des êtres humains. Que je sois devant une mosquée à faire un dars, ou chez moi tout seul à réviser mon cours, il n'y a pas de différence. Au contraire, l'autre il est plus heureux que celui qui est devant les autres à parler. Parce qu'au moins il n'a pas de problème avec sa niya. Il sait qu'il ne fait pas ça pour les autres. Mais celui qui il est mubtala bittasdir, celui qui est éprouvé par le fait de se mettre devant les autres, il est constamment fait jihad. Constamment à se battre, voilà, c'est pour qui? C'est pour eux, c'est pour Allah, c'est pour moi, je ne sais même plus. C'est perdu. أسأل الله السداد. المهم، ça c'est pour ce qui concerne la langue arabe. C'est quand le Maghreb, on m'a dit il me reste 10 minutes, je peux gratter encore un quart d'heure ou pas? Ok? D'accord. Deuxième point élémentaire. Qui c'est quoi? Allez, vas-y vous. أحسنت القرآن حفظ القرآن يا حسرة على العباد يا حسرة على من ترك حفظ القرآن هلاس 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 on a l'impression que l'apprentissage du Coran a été délaissé. Combien d'étudiants qui sont devenus par la suite des grands savants raconte que le jour où ils sont arrivés chez leur shir et qu'ils ont appris qu'ils ne connaissaient pas le Coran, ils leur disaient pas va apprendre le Coran et tu reviendras après. Hein? Quand tu lis les tarajim, les biographies des grands savants, toujours tu vois première chose hafid al Coran fi sanati kada min umri fi bidayati umri fi muqtabali umri. Très souvent quand tu lis les biographies des savants, tu te rends compte la première chose qu'ils citent, il a fini le Coran à 9 ans, à 11 ans, à 12 ans. C'est à peu près à cette moyenne-là où il l'apprenait. Al-Shafi'i, rahimahullah, hafid al-Qur'an wa khatamahu wa huwa ibn 7 sanawat. Wa hafid al-Muwatta wa huwa ibn 9 sanawat. Al-Shafi'i, rahimahullah, il a appris le Qur'an, il a fini là de 7 ans. Et il a appris le Muwatta, il a fini là de 9 ans. Vous allez me dire, bon, on s'est réveillé, on avait 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et là, akhiri. Et alors, fais de ton début dans ton din, ton année zéro, ta deuxième naissance. Et demande aux convertis en général, c'est pourquoi pour toi, le jour de ta conversion, je veux dire c'est ma deuxième naissance. Et là, ne regarde pas ce qui est passé derrière. Ne regarde pas ce qui est passé, khlas. La nyudrak, abad. Tu ne le rattraperas jamais. Regarde ce que tu peux faire maintenant. Parce que tu ne sais pas si tu seras là demain. Apprends le Coran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm. Ce sont des versets clairs dans les poitrines des gens qui ont la science. Le Coran. Il est appris par les croyants. Et Allah Ta'ala a fait de l'apprentissage du Coran dans la poitrine des croyants un moyen de protéger et de préserver le Coran de toute altération et modification. Le Coran, mes frères, il faut l'apprendre. C'est pas obligatoire, bien entendu. Quand je dis il faut, c'est pour celui qui prétend vouloir être un talib ilm, qu'il n'oublie pas que l'un des premiers efforts qu'il doit fournir, c'est dans l'apprentissage du Coran. Et après, les gens, ils viennent te voir, ils disent, ouais, mais on sait pas comment apprendre le Coran. On n'arrive pas. Prends quelques directives, peut-être elles te seront utiles. Premièrement, commence avec une portion minime. Ne te dis pas, je vais prendre deux pages tout le temps. Là, ibda bil qalil. Commence doucement. Donne-toi entre 3 ou 5 versets, pas plus.
Asim ibn Abi Najud, rahimahullah, sahib al-qira'a. Hein, quand tu dis Hafs an Asim, Asim, c'est lui le cheikh, hein, qui a khtam le salat. Il avait un élève, si je ne me trompe pas, c'était Abu Bakr ibn Abi Shayba, rahmatullahi al-Jan. Il était venu voir Cheikh Asim pour apprendre le Coran chez lui. Et Cheikh Asim, il lui a dit, tu n'apprendras pas plus d'un verset par jour. Et Abu Bakr, il avait peur de ne pas finir d'apprendre le Coran avant que le Cheikh ne meure. Donc, toi, un verset par jour. Et il y a plus de 6000 versets dans le Coran. Ça en fait du temps. Alors, il insistait chez le Cheikh, s'il te plaît, rajoute, s'il te plaît, rajoute, s'il te plaît, rajoute. Le Cheikh, il disait, non, un verset, c'est tout, pas plus. Il insistait, Cheikh, rajoute, s'il te plaît, rajoute, rajoute. Il a dit, bon, d'accord, 2. Et il n'a pas rajouté plus de 2. Et il lui faisait apprendre 2 versets tous les jours. Et dites-vous que le cerveau, la mémoire, c'est comme un muscle. Tu vois la salle de muscule et tu portes 30 kilos. T'es content bien. Et tu vois la Khalhadak, tu en portes 90 avec une main normale en mangeant du chewing-gum. Tu dis, oh, alors je t'entraîne. Un mois plus tard, tu portes 60 kilos. Mais t'es pas encore arrivé à 90 comme l'autre. Alors tu continues, tu vas tous les jours et tu pousses. Tes bras grossissent et tu arrives à 90 kilos. Eh ben, dites-vous que la mémoire, c'est pareil. Plus tu la travailles et plus elle sera forte. Une éponge qui avale tout ce qu'on lui donne. Ça veut dire quoi? Fixez-vous un nombre, donc au départ, petit, de versets, que vous devrez absolument apprendre tous les jours. Celui qui apprend le Coran, il doit apprendre tous les jours. Il n'y a pas un jour, bon, on se repose, tu n'apprends pas. Là, tu apprends tous les jours. Tous les jours, tu apprends minimum, on va dire, 3 versets. Tous les jours. Apprends-les à la même heure. Je vous assure que c'est des techniques qui aident. Fais dans ta journée une heure dans laquelle tu apprendras le Coran. Vous allez me dire, ouais, c'est quoi le meilleur moment pour apprendre dans la journée? Hada yakhtalif hasab al-ashkhas. Ça diverge par rapport aux personnes. Il y en a qui seront plus ouverts le matin après le réveil, d'autres après avoir mangé à midi, d'autres après l'asr, après la digestion, d'autres entre le maghrib et l'isha, et d'autres avant d'aller dormir. J'arrive, essaye tous. Fixe-toi une semaine, t'apprendras après soir. Et une semaine après le dhuhr. Et une semaine après l'asr wa hakada, et tu verras quel est le moment le plus propice pour toi, dans lequel tu arrives le mieux à apprendre. Essaye. On l'a dit. Apprendre le même nombre de versets tous les jours. Le premier moment, le même nombre de versets. Deuxièmement, le même jour. Troisièmement, au même moment. Quatrièmement, dans le même mashaf. N'ayez pas 20 000 mashaf chez vous, ça sert à rien. Ayez un mashaf qui devient votre mashaf, sur lequel on trouve dans la couverture la trace de vos doigts, tellement vous l'avez dans la main. Sur les pages, on sent qu'elles ont été tournées et retournées, et ainsi de suite. Lisez dans le même mashaf. Si possible, prenez un mashaf où c'est écrit bien en noir sur une page bien claire. Khalik les mashaf avec les couleurs. Hein, ils te mettent des couleurs pour ta jouite. Quand c'est vert, c'est une runna. Quand c'est bleu, c'est un hydram. Quand c'est gris, ceci. Ça sert à rien. Je vous le dis. En connaissance de cause.
Celui qui croit qu'il connaît le tajoud avec les masahif al-mulawwana, il se trompe. Tu lui enlèves le masahif avec le masahif maintenant? Ah, ça y est, il a oublié le tajoud maintenant. Ishad. Non. Apprends le tajoud. Bidul mubalara. Sans exagérer non plus. Parce que malheureusement, on se rend compte que les gens aujourd'hui, ils exagèrent dans le tajoud. Ils ont fait un ilm mustaqil. On dirait le tajoud, c'est comme le tafsir, c'est comme l'aqidah. C'est pas un ilm le tajoud. C'est pas un ilm. C'est des qawaïd. Tu les apprends vite fait et t'arrives à lire le Coran avec. C'est pas un ilm. Tu vois les gens, ils font des doros, ils passent du temps là-dedans, ils font des shurouh. Hey, où on va là? C'est pas un ilm mustaqil. Ça c'est la tariqa des ikhwan. Al-ikhwan al-muflisin. Ils te font oublier baqiyat al-ilm en t'occupant avec le tajwid. Je le sais, on s'est fait avoir comme ça nous. Le tajwid. Et le tafsir, non, après. Le tajwid. Oh, c'est bon, on l'a fait 20 fois, on va le faire combien de fois? Al-Jazariya par ici. Al-Jumzuriya par là. Après, t'as fini Jumzuriya, t'as fini Jazariya. Attends, je sors le pays. C'est des motos de ma'ruf, hein. Là, nous, na'ibouha. Na'ibou tariqat ha'oula, al-mufsidin, l'irshirali, al-nas, amma huwa aham wa anfa. Al-Shatibiya. Après, tu dis, t'as fini Shatibiya? Ya Allah, Taïbat Nashr. Oh. Tu aurais pu apprendre Al-Fiyya ibn Malik, Al-Fiyya al-Iraqi, Al-Fiyya al-Suyuti, tu aurais pu apprendre Al-Ajrumiyya, tu aurais pu apprendre Zad al-Mustaqna, tu aurais pu apprendre Al-Fiqhunya. Eux, ils ont fait du tajwid. Vous ne faites pas avoir pour les tajwidiyoun. Et je me rappelle quand on apprenait le tajwid, je passais des demi-heures devant le miroir à faire des qaf. On a de perroquets. Et tu restes comme ça. On dirait une grenouille, t'as vu quand tu te gonfles là? Al-Muhim, c'est n'importe quoi. Et subhanallah, regarde dans les paroles des grands savants. Comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, c'est pas wajib, ma'rifat al-tawhid, al-tajwid. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est un autre, bien prononcer les lettres. Et bien entendu, les mots d'autres. Al-Malbaqi, c'est pas obligatoire. La chaque, c'est mieux de les connaître. Mais c'est pas non plus à y passer des années. C'est n'importe quoi ça. Et qu'il y a avec les massages avec les couleurs, c'est pareil. Mais il y a pas. Tu crois que ça te facilite pas. Les trucs en phonétique, c'est encore pire. Arrêtez de prendre des moyens de sauter des étapes. Vous n'y arriverez pas. Suivez le chemin qui est tracé, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Vous savez combien de hizb j'ai appris en phonétique? 7. À l'époque, on apprenait le Coran, je ne savais pas lire l'arabe encore. J'ai trouvé 3 juz en phonétique. Juz Amma, je l'ai appris en phonétique. Juz Tabarak, je l'ai appris en phonétique. J'ai cherché, j'ai trouvé juz Qasami en phonétique. J'étais super content. Mais qu'est-ce que c'est, jusqu'où il t'emmène? Jusqu'où la paresse t'emmène? À rechercher absolument le mashaf en phonétique pour apprendre le Coran. Pour ne pas apprendre à lire l'arabe. Et quand j'ai appris juste Qad Samir, j'étais en galère, j'avais plus de trucs en phonétique. Vous avez cru que j'ai fait quoi? J'ai appris l'arabe? Non. J'ai pris mon Walkman, j'écoutais donc Zariyat, et je recopiais sur un cahier en phonétique. J'ai fait ça comme ça. Après j'en ai eu marre, j'ai regardé dans le Coran, et je me suis rendu compte que j'avais appris à lire sans faire exprès. J'ai réussi à lire les lettres en fonction de ma mémoire par rapport aux pages que j'avais lues. Parce que quand j'apprenais en phonétique, je regardais à côté la page en arabe. Je la regardais seulement. Et j'essayais de mettre les signes sur les sons. Al-Muhim, c'était catastrophique à entendre. Mais toi, t'étais en kiff. Tu croyais que tu restais grave bien. J'écoutais Soudaïs comme ça. Je fais, je récite comme lui. Et tu récitais aux gens, écoutez, pour moi je récite bien. Et tu récitais. Et eux, sacré, ils sont comme toi, ils savent pas que tu fais n'importe quoi. Au royaume des aveugles, les bords, on est son roi. Et t'es bien. Et un jour, tu te manges là-bas. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? C'est du Coran, c'est de l'arabe, qu'est-ce que tu nous fais là? Et toi, tu te dis, c'est du Coran? Non, c'est n'importe quoi. Il y a des règles dans la lecture du Coran, c'est pas le tajwid, et ainsi de suite, on t'apprend les règles du Coran. Et là, après, tu passes 3 ans à prendre le tajwid. 3 ans. Qu'est-ce que c'est comme perte de temps? Et le talab ilm, il fait attention à son temps. On a été voir une fois un salaf. Je crois que c'est Ayoub al-Sirtiyani, rahimahullah. On lui a dit, Ayoub, Tu es toujours dans, dans tes livres. Accorde-toi un peu de temps. Reste avec nous. Repose-toi. Il me dit d'accord. À une condition. Il me dit laquelle? Je dis non, 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 on va se la faire. Tu vois le soleil? Il me dit arrête-le dans le ciel. Tu vois le soleil? Arrête-le dans le ciel. Si tu y arrives, ben je reste avec toi. Ben non, je n'y arrive pas. Laisse-moi tranquille. Il est parti. Retourner dans ses. Hein, on n'est pas immortel, mes frères. Et le temps, il passe. Et les cheveux, ils deviennent blancs. Et on perd nos dents. Et ainsi de suite, on vieillit. Et en un clin d'œil, c'est un vieillard. Et tu dis, subhanallah. Tu dis ce qu'il disait à Boul-Atahiya. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. Ah, si seulement la jeunesse revenait un jour, afin que je l'informe de ce que fait la vieillesse. Donc on a dit à Mas'haf, en criant noir sur une page blanche ou claire, comme ça l'écriture ressort bien. Et si possible, un grand Mas'haf. Laissez les petits Mas'haf qui tiennent dans la poche, c'est sûr, c'est pratique, ça tient dans la poche, tu vas avec. Lakin, mettez tous les moyens possibles pour que votre mémoire elle photographie la page. Et multipliez le nombre de fois de lecture. Et des frères, ils lisent leur verset deux fois, trois fois, quatre fois. Ma yakfi. Lisez au moins 50 fois. Lisez au moins 50 fois les versets que vous voulez apprendre. Minimum 50 fois. Les Mauritaniens, c'est 100 fois minimum. Et la tariqa des Mauritaniens, elle est ma'rouf. Elle est ma'rouf. Les Maghrébins, et le Maghreb, ils ont, eux, ils favorisent l'écriture. Ils prennent un smoul, un huitième de hizb, et ils l'écrit sur ça, sur son ardoise, toute la journée. Toute la journée, il écrit. Il a fini, il efface. Il écrit une autre fois, il efface, et ainsi de suite. Toute la journée, ils. Et quand ils finissent le Coran, hifdan, en apprentissage, ils disent pas j'ai fini le Coran. Tant qu'ils n'ont pas réécrit le Coran entièrement de tête. Et les vrais, parmi vraiment les plus balèzes, ils le font 10 fois. Une fois par an, ça doit vrai. Ils le font 10 fois, une fois par an, ce n'est pas le cas. Ils le font 10 fois, une fois par an. Et c'est seulement au bout de ces 10 fois qu'ils ont écrit le Coran entièrement de tête qu'ils disent je suis hafid le Coran. C'est pour ça qu'on disait Nazala le Coran ou bi Mecca wa quri'a bi Misr wa hufidha fil Maghrib. Le Coran a été révélé à la Mecque, il a été lu en Égypte et il a été appris au Maghreb. Et même hatta des fois nous-mêmes on jouit de cette réputation qui ne nous revient même pas. Va dans les pays du Golfe, al ahmen ayn maghribi. Ah, hufad, antum hufad. Nous hum hufad, nous Na'na'. Ils te disent, c'est d'où? C'est du Maghreb. Ah, vous apprenez, mashallah. Non, eux, ils apprennent. Hna, on mange des chips. Quand vous réunissez tous ces petits conseils et vous vous accrochez, vous allez voir à quel point vous allez avancer vite. Mais il reste une chose. Iyakum wal hifdu munfaridan. Prenez garde. À apprendre tout seul. Wallahi, c'est une tâme. Allez voir quelqu'un qui sait lire le Coran. Et soit, il lit le verset et vous répétez derrière lui. Ou soit, vous lui lisez le verset avant de l'apprendre. N'apprenez pas tout seul. N'apprenez pas tout seul. C'est une grosse erreur. Vous allez apprendre avec des nombreuses erreurs. Et vous n'arriverez pas à vous corriger ou bien vous aurez énormément de mal à vous corriger. Aussi, pour ceux qui cèdent, pardon, les frères qui veulent se lever, c'est pas besoin de demander. Pour ceux qui veulent, qui cèdent, parce qu'on a dit, il y a des wasa'il mukhtalifa. On a dit, il y a le nadar, la vue. Et on cède avec un mashaf grand, écrit en gros, bien en noir, sur une page blanche ou jaune, mais clair. Ça, c'est la vision. Et tu lis beaucoup de voix. Soit, elle kitaba, l'écriture, comme on l'a dit, vous avez les Mauritaniens et les Maghrébins. Et il y a aussi quoi? Sam'a. L'oreille, l'écoute, d'écouter plusieurs fois. Je vous le dis, Mimbab al-Istishhad, j'ai appris des sourates qu'en les écoutant. J'ai appris des sourates qu'en les écoutant. Mon épouse apprenait sourate Ibrahim. qui moi, cette sourate n'était pas encore dans le passage où j'apprenais. Mais elle récitait toujours à côté de moi. Tout le temps. Et des fois, elle me récitait les passages qu'elle venait d'apprendre. Jusqu'à un jour, je la récitais comme ça pour voir. Et j'avais l'impression que j'avais fini. Mais je savais pas. Je lui ai dit, tiens, prends le mushaf et regarde ce que je connais. Et je lui ai lu du début à la fin. En fait, je l'ai appris quand? Je sais même pas. Je sais même pas. Des fois, à force d'écouter la cassette, le shir, eh ben, t'as une mémoire. Des fois, toi, il faut que tu saches quel type de mémoire tu as. Visuel, sonore, ou bien manuel. Et en fonction de la facilité que tu as, tu verras t'apprendre le Coran plus facilement. Et le top du top, c'est de faire les trois. Tu vas avoir un hifz qawi rasikh, tu vas avoir une bonne mémoire bien forte, bien ancrée, eh ben, réunis toutes les façons d'apprendre. Tu écris, tu lis et tu écoutes. Et tu auras un hifz, inshallah, très très fort. À un point où tu n'auras presque pas besoin, je dis bien presque pas, besoin de réviser tous les jours. Et il se peut que de nombreux jours passent sans que tu ne révises et sans que ça n'ait des conséquences sur ta façon de, sur ta mémoire. C'est très important. Donc. Et sous les halakats des frères dans les mosquées, dans un coin de la mosquée où chacun se récite ce qu'il a appris, et sont où ces assises où les frères se réunissent pour apprendre le Coran? Où sont-elles? Où ils sont ces concurrents qui se concurrencent dans l'apprentissage du Coran? T'en es où, Akhi? Ah, je viens de finir le Baqara. Non, je suis à la moitié, moi. Tu ranges-toi, je vais le rattraper. Et ainsi de suite. Quand j'ai appris le Coran, on était trois frères. Moi, je suis arrivé à la mosquée tard. Ah, je me suis réveillé, j'avais 18 ans. J'y ai trouvé trois frères qui avaient appris le Coran depuis qu'ils étaient petits, mais ils étaient toujours en train d'apprendre. Ils avaient tous à peu près une vingtaine de hizb. Moi, je n'en avais que les sept dont je vous ai parlé. Je les ai rattrapés, je les ai dépassés. Mais le problème, quand j'étais plus vieux qu'eux, le temps il est passé, je me suis marié, je travaillais. J'avais moins de temps pour apprendre. Et eux, avec les grandes vacances, ils apprenaient. Et comme ils avaient vu que je les avais dépassés, ça les a motivés pour continuer à apprendre à leur tour. Et apprendre était presque égalité. À la fin, on était tous à peu près à 50 hizb. Sauf un qui avait abandonné, il était parti, il n'était plus que trois. C'était les grandes vacances, et moi je travaillais. Les trois, huit, dont j'avais du mal à trouver un moment pour apprendre. Et il y en a un des trois, un des deux autres, je veux dire, qui a fini le Coran avant moi. Ah, j'avais la haine. Je voulais finir avant lui. Mais à Qadar Allah, il a fini avant moi. Il me restait 10 hizb, à peu près moins, on va dire 8-9 hizb, les ai finis en une semaine. Tellement je voulais absolument les finir le plus vite possible. Pour pas que l'autre qui restait, il me dépasse, qui lui a fini 2 ou 3 mois plus tard. Et subhanallah, ça a été un sabbat dans cette mosquée où on a appris pour que de nombreux frères après nous ont fini le Coran. Aujourd'hui, ils sont à peu près une quinzaine dans cette mosquée à avoir tous appris le Coran. Wal fadlu billahi tabaraka wa ta'ala. Alors si un rigolo comme moi il y réussit, n'importe qui ici peut y arriver. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. La astashilanna sa'ba aw udrika al-muna faman qadat al-amal illa lisabiri. La astashilanna sa'b, je vais rendre le difficile facile avec les efforts que je vais fournir. Aw udrika al-muna, jusqu'à ce que j'atteigne la mort. Faman qadat al-amal, les espoirs m'ont guidé, illa lisabiri, que ceux qui sont patients. Que ceux qui sont patients. Et pourtant, on n'a pas été à l'école arabe. On n'a pas été à la mosquée petit. Et pourtant, on s'est accroché un peu, on a réussi. Et donc, c'est à la portée, bi'inillah, de tout le monde. Et je vous assure, allez dans les pays arabes ou les pays musulmans, mais c'est facile à Amma, et rentrant dans les kutab, les écoles où ils apprennent à lire et à apprendre le Coran, vous verrez des azab al-ujab. Dernièrement, j'ai vu une vidéo, vous avez sûrement dû la voir vous aussi sur Internet, d'un pays, je ne sais plus dans quel contrée c'est dans la région du Kurdistan, du Tadjikistan. Agis. Des petits, c'est même pas des Arabes. Ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont tous refroidis du Coran. Tous. Agis. Des tout petits comme ça. Il y en avait même un, il avait 5 ans. Hafid le Coran. Il parle pas un mot d'arabe. Alors comment ça se fait au fond, pour nulle part, en Tadjikistan, au milieu d'une forêt, il y a une maison avec des petits qui apprennent le Coran, dans tous. Il y a des refroidis dans cette école, et nous, on n'y arrive pas. Comment ça se fait? Quand j'étais à la Mecque en 2002, un matin, après sauf sur le sadh du haram, j'ai révisé le Coran. Et à côté de moi, il y avait un frère pakistanais, un peu âgé. Quand j'ai fini, il me dit, t'es hafiz? Je lui dis, na'am, alhamdulillah. Il me dit, moi, j'ai 5 fils qui sont tous hufa. Oh. Et là, il avait un côté de moi, à côté de lui, il a dit, tiens, il s'appelait Zulkarnain, je me rappelle. Ajib, les noms, Zulkarnain. Il lui dit, récite, Isma resti al-waqi'a. Idha waqa'ati al-waqi'a, tu laisses al-waqi'a. On dirait qu'il respirait même pas. Il a tout lâché. Masha'Allah. Quand il a fini, je lui dis en arabe, tu comprends, hein, cette sourate, Masha'Allah, qu'est-ce qu'elle contient, tout ça? Il me dit, non, je comprends pas un mot d'arabe, il me dit en anglais. Je comprends pas un mot d'arabe. Ma yafhamun walaw harf min al-arabiyya. ويحفظون القرآن ونحن عرب أبناء عرب ما نفهم القرآن قد نفهم شيئا من القرآن ولو كان قليلا ولا نحفظه أي عيب هذا إنه أراب فيس دراب كي كبخونوا الأراب نسخت كو بو ونقوم بقى القرآن طيب با جاري با تأسيي والله j'ai vu des élèves étudiants en faculté de médecine apprendre des pavés comme ça de formules scientifiques ou bien de termes médicaux ou bien de médicaments, des nuits et des nuits, ils les ont passés, ils les ont pris par cœur. J'ai une sœur qui avait passé une maîtrise d'anglais à l'époque. Deux minutes. D'accord. J'ai une sœur qui à l'époque avait passé une maîtrise d'anglais, je vous assure, je me rappelle plus le nombre de fois où elle a passé des nuits blanches entières à apprendre des livres d'histoire sur l'histoire de l'Amérique ou de l'Angleterre, et qu'on s'en fiche complètement, et ben elles les ont appris. Mais là, allez, je vous dis, je sors 10 000 euros de mes poches comme ça, j'ai 10 000 euros pour le frère qui me finit le Coran le plus vite possible. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et on va voir les gens qu'est-ce qu'ils vont faire. Aïna, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Oui, ils sont les meilleurs d'entre nous. Wallahi, mes frères, vous qui portez la sunnah, ce devrait être vous les premiers qui apprennent le Coran. Comment ça se fait que quand on va chez les Ikhwan, on trouve plein de huffaz? Comment chez les tablir, on trouve plein de huffaz? Et chez nous, il n'y en a pas? Rajib hada wallah. Alors que c'est nous qui montrons l'étendard de la science et qui appelons à l'étude de la science. Et les huffaz du Coran chez nous, ils se construisent droit d'une main. Aïe wallah. C'est une honte. Pour ceux qui prétendent étudier la science. Après, ils viennent nous dire, ouais, mais Yashir Foulen, il n'a pas huffaz le Coran entier. عجيب نسيت ألوف العلماء الألوف المؤلفة الذين حفظوا القرآن بجميع طرقها وطرقه وروايته وتستشهد واحد منهم لم يحفظ القرآن عجيب هذا يتدد وما أخي تلسامون إلا فأبقي القرآن entièrement سبحان الله t'as oublié des milliers de savants qui ont tous appris le Coran de toutes les lectures et façons qu'il existe et tu me ramènes un qui l'a pas appris. Ça en fait quoi des autres qui l'ont tous appris là? Tu sais, il est content, ouais, je suis content, il n'a pas appris le Coran. Ouais. Venant pour me représenter. Ah, subhanallah. Rasul dit le hadith, Khayrukum, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Dans le hadith, Rajulan, deux hommes, Usiba fi sabilillah, famata, qui furent tués pendant la bataille. Comme ces hommes étaient connus pour être toujours ensemble de leur vivant, les sahaba radiallahu anhum ont pris l'initiative, les enterrer ensemble. Le prophète a dit, attendez, alayhi salatu wassalam, lequel d'entre eux connaissait le plus de Coran? Ils ont dit, Foulal, il a dit, enterrez-le en premier. Enterrez-le en premier. Huwa afdal min ghayri. Il est meilleur que l'autre. Et le prophète dit dans le hadith, alayhi salatu wassalam, inna min ijlalillahi tabaraka wa ta'ala, ou comme a dit alayhi salatu wassalam, إيش إن من إجلال الله تبارك وتعالى إيش تعظيم أو كما قال يعني لا استحضر اللفظ لكن في المعنى ذي شيبة المسلم وحامل القرآن fait partie de la vénération d'Allah Azza wa Jal. Le fait de respecter celui qui a les cheveux blancs parmi les musulmans et celui qui connaît le Coran par cœur. Il n'est pas comme les autres. Il a le droit à un respect particulier. Et Omar radiallahu anhu, il faisait assister dans ses assises, à ses assises, ceux qui apprenaient le Coran. Et ceux qui avaient le plus de Coran, il les mettait le plus proche de lui. Donc mes frères, vous qui êtes motivés pour apprendre la science, pour vous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour faire partie de ceux qui le craignent le plus, n'oubliez pas le Coran. Apprenez-le et passez le temps que vous avez à l'apprendre. Et soyez sincères dans votre acte. Et demandez à Allah Ta'ala qu'il vous assiste et vous aide. Et vous y arriverez. Pourquoi des milliards d'êtres humains ont réussi à prendre le Coran depuis le début de l'islam, Tamar? Et pourquoi toi tu n'y arrives pas? Alèche. Pourquoi toi et pas les autres? Pourquoi pas toi, je veux dire, et les autres? Alèche. Ne dis pas dès le début c'est mort, les sons, ça ne sert à rien. C'est faux. Tu dois faire confiance à Allah, tabaraka wa ta'ala, car certes, il est capable de tout. Toi, tu es incapable, mais Allah, il l'est. Et Allah, ta'ala, il donne la science à qui il veut. Et il aide qui il veut. Et il assiste qui il veut. Demande-lui, il te donnera. Avec Allah, azza wa jal, fi talaqil ashar, حيث ينزل إلى سماء الدنيا سله بقلب صادق خالص وسوف يجيبك ربك عز وجل كما وعدك. Demande à ton Seigneur dans la pénombre de la nuit, lorsqu'il descend au ciel de ce bas monde, demande-lui sincèrement, avec dévotion et humiliation, et tu verras, il te donnera. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله فان دو درس دوما بإذن الله عز وجل شكرا سلام مرة شكرا سلام مرة شكرا سلام مرة السلام عليكم ورحمة الله.